Comment ça va les amis? Mais... Oh, ça y est. DJ fou qui s'est emparé de ma playlist. Comment allez-vous? Bande de belles personnes en ce mardi. Désolé de ne pas avoir été hier matin ici pour la revue de presse, mais j'étais en déplacement à Lyon. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça va, ce début de semaine. Hein, en revanche, on s'est bien amusé hier soir sur... Ergo, tu étais là. Sur Party Animals. On a ri un peu comme des petites baleines. Des mini-baleines, des bébés baleines, quoi. Force Tsubasa, je vois que la journée s'annonce chargée. Pleine forme de mon côté, ouais. On s'éloigne de la stade des 3 streams par jour, pas bien. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on en fera peut-être 2. Peut-être 2. Parce que j'ai l'envie de presse ce matin avec vous. On va lire les journaux ensemble, on va s'enquérir un petit peu de l'actualité. Après, j'ai une grosse réunion à 14h. Après, je vais travailler sur... très important. Sur ça. Parce que cette émission, je veux la réussir, je veux qu'elle soit belle, je veux que vous soyez heureux. Ouais. Donc ça, c'est mercredi 19h30. Un quiz, culture générale, culture pop. Des petites questions sur la culture financière, l'économie, tout ça. Avec Douag, avec Henri Tran, avec Dejna, avec Katsup et avec Rayou. Voilà. Donc ça, je veux travailler là-dessus cet après-midi. Et une grosse partie de la journée demain aussi. Hier, Henri a dit qu'il ferait un live react. Ok. Hier, Henri a dit qu'il ferait un live react demain. Après, alors. Parce que s'il fait un live react pendant... Parce que c'est demain, en fait. Henri a dit qu'il ferait un live react demain. Live react de quoi? Un live react de quoi, du coup, ça m'inquiète. De l'émission où il est censé être en direct? Mais comment il va faire? Il a peut-être oublié, quoi? C'est très étrange comme mystère. Comment ça va? Pas clair cette histoire, ouais. Sur une émission qui a débuté il y a longtemps? Tu veux dire qu'il aurait oublié cette invitation? C'est samedi, étoile, question pour un champion, ouais, exactement, Chouba. Pour l'exclamation étoile avec un S, tu as toutes les infos. Et on fera, nous, un react pour le coup, ça c'est sûr. On fera un react, ça c'est sûr, samedi, puisque l'émission sera diffusée à 18h10. Et nous, on fera un react dans la soirée pour revenir sur le parcours, la prestation d'Étoile. Ouais, exactement. Comment tu fais pour enchaîner le stream jusqu'à pas d'heure le soir et être frais comme un gardon le lendemain matin? Le secret, c'est de ne pas être frais, hein, ce que je ne suis pas. Mais bon, le café, le café à une étoile. À une époque, putain, je suis matrixé par les toiles. Le thé désormais, la douche, le petit rasage, et ni vu ni connu, quoi. Ni vu ni connu, quoi. Putain, je vais me prendre un café pour me remettre les idées en place. Et en vrai, ça ferait... En vrai, j'aimerais bien, moi. Je t'ai connu grâce à mon arrière-grand-mère qui te regardait sur Question pour un champion. Est-ce que c'est pas trop mignon? Est-ce que c'est pas trop mignon? Merci, Juroskov. Merci, Nuno. Merci à tous les deux. Merci Sigium pour le soutien. Merci Adrien, je sais pas. Merci en tout cas, merci à tous les quatre. Merci à l'instant Adrock Gamer, 18 mois, mon record de sub. Merci Adrock Gamer, t'es incroyable. Donc normalement, alors, donc cet après-midi je bosse sur l'émission, ok. Remake, envoie-moi un DM en vrai. Remake, envoie-moi un DM sur Twitter, sur X. Hein, je regarderai avec plaisir. Donc cet après-midi on bosse sur l'émission. Ce soir... Ah, comment tu sais que je passe dans les maternelles à Stréan? Ouais. C'est pas tout de suite, mais je vais passer dans les maternelles, ouais. Ce soir, peut-être un peu de gaming pour toujours continuer à explorer les jeux de la Zilane. Ce qui ne veut pas dire que je vais participer à la Zilane, c'est juste que je trouve rigolo de tous les tester pour voir mon potentiel. Bon, en même temps, on le connaît. Sur les jeux de la Zilane, et puis après prendre une décision, quoi. Voilà. Peut-être Warcraft 3 ce soir. Ouais. Salut, Didi Gadjo. Tu en as parlé. De quoi, Camille? Ah, c'est parce que j'en ai parlé? Ah oui, c'est vrai, des maternelles. Je suis arrivé au Japon pour 6 mois, je peux enfin profiter des matinées l'après-midi. Danzan, c'est l'après-midi? Tu sais que dimanche, dans Simplay, on avait Ninion, la streameuse française qui vit au Japon depuis 10 ans, qui m'a fait découvrir Age of Empires 4, c'était incroyable. Bon séjour au Japon, Danzan. Tom. Ah, c'est moi qui l'ai liqué la semaine dernière. Ah oui. Oui, je vais aller au maternel, j'aime bien. Merci Citron. Incroyable. Citron Violet, tu vas rire. Et Citron Violet est un streamer français qui vit au Japon. Danzan vient d'écrire dans le chat, Citron Violet, juste arrivé au Japon pour 6 mois, je peux enfin profiter des matinées Étienne l'après-midi. Le timing. Alors que dimanche soir à 20h, on a reçu Ninion, que tu connais, Citron Violet, qui vit au Japon depuis 10 ans, qui était lancé un play. Incroyable. Du coup, elle n'était pas au Japon, elle était en France, elle était à la maison. Et je vois un coucou de Tahiti aussi dans le chat. Merci Barbouille. Merci encore Citron pour le raid. J'espère que tu vas bien. Salut, tu as l'air fatigué, tu devrais te reposer un peu plus. Je suis toujours fatigué. C'est mon état normal en fait. Donc je me suis habitué, j'aime bien. J'aime bien en vrai. Pareillement, je suis en Corée du Sud, je peux suivre les matinées Étienne à 17h30. C'est fou ça. C'est fou ça. Il va prendre le bus. Qui va prendre le bus? Citron Violet, il va prendre le bus? Incroyable, c'est incroyable cet arc Japon là. Hello Alexandra. Tu as quand même une vie hyper variée quand on y pense. C'est pas faux. C'est pas faux. Split Fiction, je sais pas, Hero de la Luna, si je vais le tester. C'est un très beau jeu. Je sais déjà que ça va être un très beau jeu vu que le studio a fait des dingueries déjà avant. Qu'on a parfois exploré ici. Mais comme c'est pas dans les jeux de la Zilane et que je suis dans un mini arc, un arc ouillé, un mini arc. Un arc pour enfants, pour découvrir les jeux de la Zilan. Excellent jeu. Ah bah j'en doute pas que c'est un excellent jeu. Ouais. Mais du coup, Split est pas une priorité. Alors que je sais que c'est un pur jeu. Alors je sais que c'est un pur jeu. Coucou Sam, alors comme ça on fait la revue de presse au lieu de tryhard, un nouveau top 3. Est-ce que Gabgad a pas raison d'ailleurs? Est-ce que c'est bien raisonnable que je fasse de la revue de presse alors que je devrais être censé poncer les jeux? Non, on est attaché aux revues de presse, oui, mais je pense à mon avenir de joueur e-sport, moi. On veut nos rituels, oui. Il a tort, la revue de presse est top. Oui, mais mon entraînement, il a raison, mon entraînement. J'ai presque envie. Gab Dag. Bon, il est un peu prononçable, ton pseudo. Ouais. C'est raisonnable? Ah merde. J'ai un mois. Imaginons que je participe à la Zinane, j'ai un mois. Et en fait, j'ai un mois où j'ai trop de trucs, je vais très peu jouer. Comme d'habitude, je vais découvrir les jeux, mais je vais pas les poncer, quoi. Ouais. Oh, tu vois, tu me fais engueuler. Son gougou et Losa ne m'envisaient pas les jeux avant l'interro, tu vois. Ah ouais. Mince. Qu'est-ce qu'on fait? On annule la revue de presse? Je fais un mois sans revue de presse? Je fais un mois sans revue de presse? Qu'est-ce que t'en penses, le capitaine Sebou? Non. Je vois non. En vrai, avec la revue de presse, tu traînes pour Bot en vrai. Pas faux. Bot, c'est une des épreuves de la Zilane, mais c'est de la culture générale. Oula, Funky Hippie est très sérieux. Garde le lien de confiance avec tes commu. Garde tes rituels. Surtout dans le contexte actuel où la confiance se perd si vite. La confiance se perd si vite en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Mul me dit l'info est pas très intéressante en ce moment, go s'entraîner. Vas-y Sam, il se perd rien en ce moment en plus. On veut une revue de presse. Non, mais de toute façon, je vous ai préparé une revue de presse. Je vais faire une revue de presse. Oui, ne vous inquiétez pas. Je troll un peu. 33 Popo Vigno, ça fait 33 mois. Waouh. Merci Lucky de Bondy, merci Mogwash, merci la Chambre des Frères, merci Maginadel, merci Inès, merci Navicar pour les follow. Bon, on lance une petite revue de presse. Je vous fais un petit sommaire pour vous dire ce qu'il y a dans l'actu. Qui sera ton binôme pour la Zilane? Ben, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je vais faire la Zilane. Avant de chercher un binôme, ou une binôme, Il faut que je me décide d'abord. C'est parti pour le sommaire? Il y a des gens qui nous regardent depuis l'Australie. Ce matin, on nous regarde depuis le Japon, on nous regarde depuis la Corée du Sud, on nous regarde depuis l'Australie, c'est incroyable. J'espère que cette journée s'est bien passée, Darcy Z. On va prendre des questions sur la Zidane pendant un mois, MDR. Oui. On n'aura plus de GTA? Alors GTRP. Et GTRP, ça me gratte, hein, j'aimerais bien y retourner. Mais là, pas, a priori, pas, non, pas, là, pas pendant un mois. Merci The Original Pimous. 35e mois d'abonnement. J'ai dépassé mon âge en nombre de mois de sub, me dis-tu. Salut Kiyomi. Salut Poulidor. Allez, let's go. Je vous dis ce qu'il y a dans l'actu ce matin, petit sommaire. Ok, puis après on lit les journaux, on prend le temps tranquillement. Ça va parler de retraite ce matin un petit peu. Ça va parler de l'Ukraine aussi. Allez, je vous montre. Je vous emmènerai d'abord du côté de Libération. Je vous fais un petit sommaire, hein. C'est l'essentiel de l'actu en quelques minutes. Ce faux teaser autour de la participation. J'aime la bonne humeur dans le chat. Ce faux teaser, alors c'est c'est comment ? Barnangen 11 ? Barnangen ? Je ne sais pas. Ce faux teaser autour de ta participation à la Zilan devient grossier et ubuesque. Grossier et ubuesque. Waouh ! Carrément ? Waouh ! Waouh ! Waouh. 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 Putain, ça, de bon matin, ça pique quand même. Waouh. Waouh. Ouf, ça pique. Vous imaginez ce que je suis en train de faire. Évidemment, ce silence, les habitués savent ce que je suis en train de faire. Eh ouais, un petit historique. C'est pas... C'est pas... Bon. Bon. Sur 10 pas noté. Bon, on est parti, les amis. C'est parti. Alors, dans les journaux. Attendez, il faut que je vous réactualise la carte d'acquis, là, parce qu'elle est fâchée. Voilà, ok. On y est, très bien. C'est parti. Alors, en une de Libération, il y a deux infos dont on va parler. Voilà. T'as pas tout raté, Philizy. On vient débuter. On vient seulement faire le. On n'a même pas fait le sommaire. Voilà. Ah, c'est la cam maintenant. C'est rien, c'est rien. C'est ma carte d'acquis ce matin qui fait des siennes, mais ça, c'est pas grave. Ça. Ici, on est informaticien. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Tu vois ? Et celle-là, elle marche toujours. Ah non, ce matin, elle est bloquée, celle-là. Ah zut ! C'est l'une ou l'autre. Celle-là, elle est bloquée maintenant. J'ai pas. Ah, je sais. Je vais... Ah, ok. Je vais... Non. Je sais. Je vais pas la mettre en auto. Alors, attends. Black Magic. Je sais. Je vais pas les mettre en auto. Je vais passer la une. Attends, on va faire dans l'ordre. La caméra. Je vais lui donner un canal bien à elle. 1080. P50. Let's go. Alors, c'est l'informaticien qui parle. 1080. P50. Hop, P50. Ah, ici, ok. Et pour... Non, c'est pas des codes de carte, ça s'appelle juste de la résolution graphique, MGIN, mais tout va bien. Hop, et pour la capture, qu'est-ce qu'elle me dit ? Hop, faut qu'on parte sur du 200, 2160. Ok. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. Normalement, là, on a ça. Et là, on a ça. Informaticien. Informaticien. Let's go. C'est beau, non? C'est beau, c'est pas beau? Voilà. Donc, en une de libération, il y a deux informations dont je vais vous parler ce matin. D'abord, retraite. Beaucoup d'articles ce matin sur ce qui s'est passé autour de François Bayrou et des discussions sur les retraites. Retraite, Bayrou enfume son conclave. Qu'est-ce qu'un conclave? C'est Bayrou lui-même qui a utilisé le mot pour qualifier tout ça. Le Premier ministre a réussi à se mettre les syndicats et la gauche à dos en fermant la porte à un retour aux 62 ans. Méthode qui interroge. J'ai pas tout de suite compris, puis en fait, les articles étaient assez clairs sur le sujet. Manifestement, Bayrou avait fait des promesses comme quoi rien n'était tabou dans la discussion sur le retour sur la réforme des retraites. Rien n'était tabou. Voilà. Et il vient de fermer la porte en disant, bah si, en fait, le retour aux 62 ans, par exemple, c'est non. Et en fait, ce qui surprend, c'est pas tant cette déclaration que le fait qu'avant, il ait dit que tout était discutable, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre ce matin. Donc ça, c'est les retraites, gros dossier là-dessus, dans Libération et le Figaro, on le verra. Et puis, Libération est le journal qui consacre le plus de pages ce matin à Émilie Dequesne, hein, l'actrice, la comédienne, qui vient de disparaître. Donc je vous montre le dossier sur les retraites ici. Retraite, Bayrou se dédie, les syndicats se raidissent, donc on reviendra là-dessus. Et ce qui m'intéressait, Libération est plutôt un journal avec une ligne éditoriale dite de gauche, et Le Figaro avec une ligne éditoriale dite de droite, en tout cas conservatrice, et on verra le regard du Figaro sur le même sujet. Hein. Retraite, Bayrou braque la gauche et les syndicats, là où Libération le regrette, Le Figaro, a priori, va plutôt s'en féliciter. Voilà. Déni de réalité. Bon là, clairement, dans l'édito de Gaëtan de Capelle, que j'ai pas lu encore, je pense que ceux qui souhaitent un retour à la retraite de 62 ans vont sans doute prendre cher, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux regards sur la même actualité. Donc voilà, ça c'est le Figaro, donc deux gros dossiers. Ça m'empêche pas de dormir, parce que 2027 n'est pas tout de suite. Mais c'est comme ça, nos politiques, les partis, sous la Ve République, sont très obsédés. Par la Ve République, il ne faut pas que je fasse de pause dans la phrase, sinon c'est super bizarre. Par l'élection présidentielle. Et du coup, à droite, donc chez LR, chez Les Républicains, eh bien, on prépare avec assiduité cette échéance, qui n'est pas pour tout de suite, mais voilà. Et donc j'apprends qu'il y a des. Ce qui est fou, il y a des concurrences, des guerres de clans. C'est incroyable, ça. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, un duel sur fond d'élection présidentielle. Il y a des ambitions. Voilà, donc c'est assez fascinant. Pas du tout. Et on va se pencher un petit peu sur, peut-être, je l'espère, le fond de ces candidatures. Qu'est-ce que nous proposent ces candidats putatifs à la présidentielle 2027? Quelqu'un me dit, c'est typique de la droite. Bon. À gauche, on aime aussi beaucoup se diviser en vue des élections importantes. Hein. On va le rappeler dans la foulée, sinon on passe à côté de quelque chose, quoi. Ouais, certains me parlent du Proche-Orient et d'Israël. Ce matin, on ira voir. Ça, c'est des infos qu'ils n'ont pas dans les journaux ce matin, parce que je pense qu'ils ont bouclé avant ces événements. Ils n'ont pas eu le temps de le mettre, mais on va aller en parler. On ouvrira peut-être la revue de presse avec ça, d'ailleurs. Hein, puisqu'on me parle de nouvelles frappes israéliennes. Donc on va aller voir ça ce matin. Les candidatures à la présidence du parti et des Républicains seront closes aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la direction du parti. Confirmant un affrontement entre le ministre de l'Intérieur et ancien sénateur Bruno Retailleau, voilà, et Laurent Wauquiez, qui est le président du groupe, à l'Assemblée. Simon Owis, merci beaucoup pour ce 13e mois. Naguito, merci pour le 4e mois. The Original Pimous, encore merci, mon ami. L'Ukraine, c'est pas compliqué. Voilà. Si, bien sûr que si. Ceux qui vous disent qu'un sujet d'actualité est simple, vous savez déjà que tout ce qui va suivre est faux. Mais pour certains, l'Ukraine, c'est simple. C'est simple comme un coup de fil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une vieille pub. Salut Abracor. C'était quoi d'ailleurs la pub? C'est simple comme un coup de fil. C'était pas une pub, ça? Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil? Ah, c'était une pub! C'était une pub! C'est une pub? C'était une pub. C'était une pub, genre pour les télécoms?
Rejoignez gratuitement.
Pour les télécoms? On va aller voir ça. C'était une pub. Ça vous rappelle, les vieux, ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle? J'ai un truc là. Pub télécom, pub. C'est une pub pour les PTT. Oh là là. C'est une pub pour le téléphone. Faut que je monte, faut que je monte là. Arthur, on va téléphoner, dit le monsieur.
Arthur, on va téléphoner à papa et tu vas lui dire où nous sommes allés dimanche.
Où tu étais dimanche, Arthur?
À la mer.
Bravo, Arthur.
Allô, Patrick?
À la mer.
Je vais vous passer Arthur, il va vous dire où nous sommes allés dimanche. Tiens, écoute, papa.
Arthur, où étais-tu, bonhomme? Allez, dis-moi où.
Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil.
Ok. Donc, c'était une pub pour nous inciter manifestement à téléphoner. Je ne veux pas aller voir la date de la pub, je pense que c'est un petit peu ancien. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que je vois qu'il y a une. Comment on dit? Il y a une parodie des nuls. Attends. Il y a une parodie des nuls. Il y a une parodie des nuls. Je connais, je connaissais pas celle-là. C'était une époque où les gens se faisaient plaisir à la télévision française. Voilà, c'était. C'est les nuls, ils faisaient des parodies. On parle de la fameuse parodie des bouteilles. Les nuls, bouteille de lait. C'est quoi cette bouteille de lait? J'ai oublié celle-là.
Qu'est-ce qu'elle fait?
On passe le.
J'étais très nul!
C'est quoi ça? Oh, tout est partout, comment ça marche? C'est une bouteille de lait. Moi, ouais, je l'ai.
Papa?
Je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Donc, les nuls, toujours. C'est quoi cette bouteille de lait? Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est une vieille pub pour le lait.
Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, c'est quoi ces bouteilles de lait?
Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Suffit de demander.
Bon, c'est une autre époque, c'est une autre époque. Les jeunes, vous pouvez pas comprendre. C'est une autre époque. Voilà. J'avais oublié celle-là. Je me rappelais pas du tout. Ok, d'accord. Voilà. Ah, il y a IKS24 qui dit grossier. C'est ton troisième message sur la chaîne. Le premier étant Hello. Et le deuxième, c'est encore plus nul aujourd'hui. Voilà. C'est potache, c'est potache. Oh là 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 là. Je dirais même que c'est. Moi, je dirais que c'est grossier et ubuesque, je dirais. Merci, GG Blues. Merci, Extratovic, pour le 30e mois, nom de Dieu. Merci, Isara Kiri, pour le 43e mois, nom de Dieu. Merci, Simone Lewis. Incroyable. J'ai envie de dire, c'est grossier et ubuesque. Hein? Quel salmi qu'on dit. Exactement, exactement. Donc, je disais, l'Ukraine, c'est simple comme un coup de fil. La ref à cette vieille pub pour les télécoms. Évidemment que l'Ukraine, ça n'a rien de simple, mais pour Poutine et Trump, c'est très simple. C'est simple comme un coup de fil. Un coup de fil. Attention de ne pas parodier les nuls. Trump et Poutine arbitrent au téléphone le sort de l'Ukraine. Ce mardi 18 mars, donc c'est qu'aujourd'hui, le président américain va s'efforcer à l'occasion d'un échange téléphonique. On espère que la ligne sera bonne, hein, qu'ils vont réussir à bien s'entendre, d'obtenir de la Russie un cessez-le-feu en Ukraine. C'est tellement simple, la paix en Ukraine, il suffit de prendre son téléphone et d'appeler Poutine. C'est magique. Principe dont le déjà accepté par Kiev, que vous savez que l'Ukraine et les États-Unis ont signé une proposition, un accord de cessez-le-feu, et on attend maintenant la réponse de Poutine. Et ben voilà, coup de téléphone aujourd'hui. Voilà. À ce jour, Kremlin n'a fait guère de concessions. Merci à la Croix pour ce papier aujourd'hui. On rendra hommage également à Emily Deakin, cette actrice qui vient de mourir, 43 ans, voilà. Et il y a un très bel hommage dans Libération ce matin, Emily Deakin, l'art de la fougue. Révélation inoubliable de Rosetta, c'était un film des frères Dardenne. En 99, l'actrice belge au parcours éclectique est morte dimanche d'un cancer. Je crois que c'est un cancer rarissime, fulgurant. Elle avait 43 ans seulement. Voilà. Et Libération non seulement consacre deux pages à cette disparition, mais consacre également sa une, cette très belle photo, à la disparition de la comédienne. L'art de la, non pas de la fugue, mais de la fougue. Voilà. Beaucoup saluaient son énergie incroyable. Voilà. Donc on lui rendra hommage ce matin. Et puis on terminera avec un truc un peu de tech qui m'a fait un peu rêver. Bon, certains diront que c'est un peu grossier et ubuesque, mais moi ça m'a un peu hypé. Bientôt des AirPods qui traduiront les langues étrangères en temps réel. Alors ça, a priori d'autres écouteurs le font déjà, mais ça va arriver sur les AirPods. Apple s'activerait comme ça, hein, pour inclure cette fonctionnalité dont la... Ah, c'est une mise à jour. Ah, mais ça peut marcher avec les anciens iPhones. Attends. Ah, ça, c'est pas de nouveaux AirPods. C'est une mise à jour du téléphone. Inclure cette fonctionnalité dans la prochaine mise à jour iOS 19 de ces iPhones. Les Pixel Buds de Google et d'autres fabricants d'écouteurs sans fil ont déjà franchi le pas. Faites-vous tester contre le cancer des fesses comme Samuel. Oui, The Lord Danny, tu as raison. La conversation avec votre interlocuteur débute en coréen et finit magiquement en français dans vos oreilles et vice-versa. Pop, 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 pop. Ah ouais, mais c'est une mise à jour. C'est encore mieux, ça. Ah, nouveaux écouteurs, mais même iPhone. Non, c'est... Je regarde. Fonctionnalité qui devrait logiquement être réservée aux dernières générations d'AirPods. Donc c'est pas des nouveaux AirPods, mais ce serait plutôt les récents, quoi. Voilà. Alors vous êtes plusieurs à me dire que Samsung le fait depuis un moment. Oui, c'est ce que dit le Parisien dans son titre. Mais vous n'avez pas bien entendu. C'est fou, ça. Je trouve ça grossier et ubuesque. Écoutez, bordel. Merci, Alexis. Merci, Vladilens. On ira lire l'article, ce n'est que le sommaire, je ne dis pas tout. Je vous donne deux ou trois infos pour que vous ayez l'essentiel de l'actu, si vous avez des choses importantes à faire, comme aller travailler par exemple. Comme ça, vous avez un petit peu l'essentiel. Est-ce que le Wi-Fi est assez chaud? Bonjour Samuel, ça t'arrive de fumer des clopes ou pas du tout? Non, je ne suis plus fumeur depuis très longtemps. Junior, tu as arrêté le café, Sam? Oui, j'ai arrêté le café momentanément. Le temps de remettre mon ventre à l'équerre. Ou en Y. Merci Guy, 513. Il n'y a pas l'article sur l'Algérie ce matin. Ah, tu parles des OQTF, tout ça? Les articles étaient un peu décevants. Donc j'attends un article un peu plus complet. Ce matin, c'était un peu allusif. Mais c'est clairement un sujet dont je vais vous parler dans les prochains jours. Ouais. Banangan, je salue ton humour, parce que je vois ton message et je salue ton humour. Merci Dogorien pour le troisième mois d'abonnement. J'aime ça. Donc je te laisse épingler du coup. Point d'exclamation, RDP. Chifimi. Comme ça, revue de presse, RDP. Comme ça, tu auras toutes les infos sur ce que je fais ici. Voilà. Quelqu'un me demandait si je disais la presse locale. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'on partirait pas pour une petite revue de presse à la cool, là? On va parler un petit peu de retraite. Tu roulais sur quelle machine pendant tes triathlons? C'est un vélo italien avec des vitesses électriques, là, le passage de vitesse électrique, là, en carbone. Pas trop cher, je l'avais acheté d'occasion à un copain ancien semi-pro en vélo, qui était à ma taille. Enfin, pas le copain, hein, le vélo. Mais j'ai oublié, c'était un beau vélo. Non, pas Pinarello. C'était une marque un peu plus confidentielle. Pas Bianchi. Moins connu. Bon, attends, on va regarder, on va trouver sur Internet. Hein. Samuel Etienne, vélo. Hein. J'ai trouvé une photo, là. C'est un quoi? On voit pas là. Putain, j'ai les jambes devant le. Attends. Où est-ce que je vais trouver ça? Attends. Ça, c'est un lien pour une collecte Alvarum. J'avais fait une collecte pour une association à l'occasion d'un triathlon. Ah, j'avais collecté des sous, je suis content. J'avais collecté des sous pour mon premier Ironman. Mais là, je trouve pas l'article par contre, attends. Je vais vous trouver ça. Où est-ce que... Non, ça, c'est un look. C'est un vélo qu'on m'avait prêté. Ça, c'est moi en bécane. Ça n'a aucun intérêt. Attends. Faudrait que je zoome. Attends. Je vais essayer de isoler cette photo. Attends. Je crois que je l'ai. L'informatique. Ok. Non, il ne veut pas? Comment ça se fait? Attends, c'est bizarre. Normalement, je vous ai fait un petit raccourci. Ok, il l'a pas. Non, Bianchi, non, moins connu. Bizarre. Alors ça, la Zilane, il veut bien, d'accord, ok. Mais j'ai retrouvé. Alors, le vélo, c'est un... Deda Chai. Deda Chai Strada, voilà. Deda Chai Strada, c'est ça. Deda Chai Strada. Ça ressemblait à... Ah ça. Un vélo à droite, là. Celui-là, là. Celui-là, là. Ah, c'est, voilà. C'était ce vélo. J'ai fait 3 Ironman avec. Voilà, puis c'est fini maintenant, parce que maintenant j'ai découvert le jeu vidéo, donc on va se calmer. Voilà. Mais c'était des bons souvenirs. Attends, juste un petit plaisir, là, parce que j'en reviens pas de ça quand même. Attends.
Papa, comment...
juste un petit plaisir.
Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait?
Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. C'est tout de demander.
Et demain, Lactène vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactène Cacao.
Ah, tain, j'avais pas la chute. J'avais pas vu. J'avais pas vu la chute pour Lactène Cacao. Ok. Comme quoi, faut toujours aller au bout. Faut toujours aller à fond. J'avais pas vu la chute. Est-ce que tu avais déjà des enfants quand tu as fait tes Ironman? Mon mec s'est inscrit cet été, j'accouche fin mai. Très bonne question de Nalessi. Écoute, j'étais sur la fin de mes Ironman. C'est-à-dire qu'en fait, mes derniers Ironman, je dois avoir mon premier qui était encore petit. Et après, effectivement, le temps a manqué. Le temps a manqué pour tout faire. Merci Ricless. Merci Lucien Ducasse. Salut Salazar. Un petit Tony Glandil pour la route. Allez, Tony Glandil. Les jeunes, vous n'avez pas la ref. Tony Glandil. Ça rappelle les souvenirs, ça. Les nuls. Toujours. Je voulais mettre Tony Glandil. Ça va choquer les gens. Ah ouais, bah c'est la télé quand la télé... c'était un peu la fête, quoi. C'était moins aseptisé, quoi. Il y a une époque, ça a été quand même moins aseptisé, on va dire.
Eh ben, vieux, qu'est-ce qui t'arrive?
Ah non, c'est rien, mais quand je me lave, j'ai un peu mal.
Ah, fais gaffe, c'est vachement important. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil.
Tony Glandil?
Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton.
Désolé. C'était une autre époque. Putain, c'est un fou. C'est une autre époque. Bah, ça nous faisait rire à l'époque. Ouais, bon, évidemment, maintenant les jeunes, ouais, c'est... Putain, vous êtes vraiment gênant, vous êtes vraiment cringe, les vieux. Oui, c'est Alain Chabat. Ouais. Voilà. Et mais nous, ça nous faisait rire. Voilà. C'était. Pardon, je l'avais pas vu depuis très longtemps. Et waouh, ça marche. Ouais. Voilà, je suis en leur que j'ai honte d'avoir reconnu au premier son de la vidéo. Eh oui. Je suis jeune, c'est drôle, ça fait plaisir. Ouais. L'amour absurde pipi caca consubstantiel des années 90. Ouais, même 80, je dirais même. Moi, je suis resté bloqué là-dessus. Hein. Voilà. Du coup, je laisse assez peu s'exprimer mon humour parce que ça risque d'être mal compris, quoi. Notamment par les jeunes générations, quoi. La mouche qui pète, je l'ai pas. C'est quoi? Je connais pas. La mouche qui pète? J'ai pas la ref, je connais pas. Je l'ai pas. C'est quoi la mouche qui pète?
Ça, c'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, venez voir.
Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert?
Regardez.
Ah, qu'il est con.
Hein? La mouche qui pète.
La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous.
Je ne connaissais pas ça. Quoi, Zorro? Attends, faut regarder jusqu'au bout?
Oui, plein, oui.
ok, j'avais pas... Ok. Ah... Joli. Bon bah voilà, c'était notre humour à nous de l'époque. Voilà. En tant que chercheur, j'apprécie énormément Modicato. La mouche qui pète. Les déchiens, j'ai pas trop regardé. J'ai un peu regardé les déchiens. Ouais, il y avait des... J'aimais bien certains personnages, notamment Yolande. C'est Yolande Moreau, c'est ça? Mais j'aimais bien. C'était assez subtil l'humour de l'époque, quoi. Merci Jacek pour le 15e mois. Merci les follow, Maïsan, Zephyr, Flifina, Premier Amendement, Bradchok, Mansou, Azulay, tout ça. Ouais, Yolande Moreau, j'adorais. Allez, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse? Let's go. Oui. On commence par la retraite. Vous êtes parti sur les inconnus, là. Ça, ça ne parle plus que des inconnus et des chiens. Allez, c'est parti. Donc, manifestement, Bayrou a fait une dinguerie. En tout cas, c'est ce qu'on pense du côté de la gauche et des syndicats. Oh, t'as raison. On a dit qu'on avait parlé du Proche-Orient pour commencer. Parce que certains m'ont informé qu'il se passait des trucs au Proche-Orient qui ne sont pas dans les journaux ce matin. Bravo, Poum, bien vu. Qu'est-ce qui se passe? Donc, des nouvelles frappes? Ok, oui, si, faut partir sur ça, ouais. Effectivement. C'est de Ouest-France, ici. Donc, centaines de morts à Gaza. Ce que l'on sait des frappes israéliennes nocturnes. C'est un papier qui a été réactualisé ce matin à 7h29. Des frappes israéliennes. Sans précédent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu du 19 janvier, on fait au moins 330 morts à Gaza. Pourquoi j'ai une petite musique là ? C'est quoi cette musique ? Attends, j'ai fermé mes fenêtres là. Ça, c'est West France qui me balance ça là. Vous savez la musique, vous aussi ? Je l'enlève. Voilà. Faut être un petit peu sérieux, quoi. Donc, des frappes israéliennes sans précédent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu du 19 janvier ont fait au moins 330 morts à Gaza dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué la défense civile du territoire palestinien. Le Hamas accuse Israël de torpiller la trêve. L'offensive israélienne durera aussi longtemps que nécessaire. Voilà ce qu'on sait de la situation. Écrit Ouest France. Donc frappe sans précédent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Frappe décidée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense. Pourquoi ? Explique Israël. Suite au refus répété du Hamas de libérer nos otages, ainsi qu'à son rejet de toutes les propositions qu'il a reçues de l'envoyé présidentiel américain Steve Witkoff et des médiateurs. Le Hamas, de son côté, accuse Israël de vouloir torpiller la trêve. Le Hamas estime que Netanyahou a décidé de sacrifier les otages. Le Hamas a accusé mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de se servir de la guerre comme une bouée de sauvetage face à ses problèmes politiques et d'avoir décidé de sacrifier les otages encore vivants à Gaza. Alors, je vous parlais d'un bilan de 330 morts. Dans un premier temps, le premier bilan qui a été évoqué, c'est un bilan de 220 morts. Pour la plupart des enfants, des femmes, des personnes âgées, déclare un porte-parole de la défense civile de Gaza, organisation de premier secours qui dépend du Hamas. Le bilan s'est depuis alourdi à 330 morts. Un bilan qui ne cesse d'augmenter au fil des heures. Manifestement, les frappes étaient très importantes. Du côté d'Israël, on affirme que ces frappes préventives ont visé des commandements militaires de grade intermédiaire, des membres de la direction du Hamas, ainsi que des infrastructures terroristes du mouvement, qui a parlé de dizaines de frappes. Quelqu'un me demandait, est-ce que Trump était au courant ? Israël a consulté la présidence américaine avant de lancer des frappes sur la bande de Gaza. L'administration Trump et la Maison-Blanche ont été consultés par les Israéliens à propos de leurs attaques à Gaza. Retour sur le... C'est une UCAT. Retour sur la... sur le cessez-le-feu. L'accord de trêve est entré en vigueur le 19 janvier, après 15 mois de guerre déclenchée donc le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas palestinien contre Israël. Durant la, parce que certains me disaient à l'instant, mais je croyais qu'il n'y avait plus d'otages. Durant la première phase de l'accord de trêve, donc qui a débuté le 19 janvier, qui a expiré le 1er mars, le Hamas a rendu 33 otages, incluant 8 morts. et Israël a libéré environ 1800 détenus palestiniens. Mais les négociations sont restées depuis au point mort. Donc il y a eu échange d'otages et de prisonniers dans un premier temps, puis ça s'est arrêté, quoi. Le Hamas, de son côté, a réclamé de passer aux négociations sur la deuxième phase de cet accord, hein, qui prévoit un cessez-le-feu permanent cette fois, le retrait israélien de Gaza, la réouverture des points de passage pour l'aide, la libération des derniers otages. Israël, pour sa part, souhaite une extension de la première phase jusqu'à la mi-avril. Salut, Alt Lévy, merci beaucoup pour ton message et ton soutien. Il réclame pour passer la deuxième la démilitarisation totale du territoire et le départ du Hamas. Tu m'étonnes que c'était compliqué. L'article du... Pour le coup, GG Ouest France qui nous fait un article qui est assez complet, quoi. Sur le sujet. Voilà. Je vous lis. Hein. Salut Nicolas. Oui, le chef des renseignements israéliens a été viré, ouais, j'ai vu ça, ouais. Quelqu'un me parlait du limogeage du chef des renseignements israéliens. Vous avez un article ici de la Libre Belgique. En Israël, le chef du renseignement intérieur bientôt démis de ses fonctions, évoquant un manque de confiance. Netanyahou a annoncé vouloir limoger ce chef du Shin Bet qui s'appelle Ronen Bar. Manifestement, la relation entre les deux hommes était tendue depuis un moment. Là, vous avez cet article de France Info où des proches d'otages, donc israéliens, demandent à Netanyahou d'arrêter de tuer les captifs. Le Forum des familles, plus grande association de proches d'otages en Israël, implore Netanyahou d'arrêter de tuer leurs proches après les frappes israéliennes intenses de la nuit dernière. Et après, c'est les infos qu'on a lues dans l'article de Ouest-France. On n'est pas dans le sommaire, du coup, Andrea. Ce matin, les journaux sont partis à l'impression avant que d'avoir ces infos, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Opéra 43. Donc, on allait faire un petit point sur cette actu, quoi. Puisque ce sont des bombardements qui ont lieu dans la nuit. Je pense que je ferai une revue de presse demain matin, et je pense qu'on aura beaucoup plus sur le sujet, c'est-à-dire des articles d'analyse, avec les réactions, et avec le... Les, les arrière-pensées éventuelles de tel ou tel sur ce sujet, quoi. Notamment Netanyahou. Pourquoi ces frappes là, alors qu'on était dans une situation de cessez-le-feu, quoi. Le Hamas dit par exemple qu'il y a des arrière-pensées politiques de la part de Netanyahou et évoque les affaires judiciaires qui le visent et dont il est protégé en étant au pouvoir. On en parlera demain matin. Je me demande si Trump a toujours son idée de Riviera à la place de Gaza. Écoute, Grenouillotte, il n'en parle plus. Donc, on en parle demain matin, hein, avec plus d'articles encore, quoi. Je reviens à la une des journaux de ce matin avec la réforme des retraites. Bayrou enfume son conclave, c'est lui qui avait utilisé le terme, et... Je le disais, beaucoup de déception et de colère du côté de la gauche et des syndicats ce matin après les propos de Bayrou sur non, ça ne va pas être possible de retourner à un âge légal de la retraite en France à 62 ans. Le Premier ministre a réussi à se mettre les syndicats et la gauche à dos en fermant la porte à un retour aux 62 ans, une méthode qui interroge, merci Andrea pour le cinquième mois. Retraite, Bayrou se dédie, en fait c'est ça qui provoque la colère, c'est qu'il avait laissé entendre d'autres choses et finalement il revient dessus. Les syndicats se raidissent. En fermant la porte à un retour aux 62 ans, le Premier ministre sème l'incompréhension chez les partenaires sociaux face à des négociations qui risquent de devenir impraticables. La CGT s'interroge sur sa participation, tandis que la CFDT s'apprête à demander des clarifications aujourd'hui à Matignon. Lisons l'édito, je pense que l'édito de Paul Quignon va sans doute nous éclairer le sujet, puis on ira un petit peu dans le détail après avec l'article. Parole. Personne n'a encore claqué la porte, hormis FO dès la première séance. Mais dimanche, la moutarde est sacrément montée au nez des syndicats participant depuis 3 semaines quand même, hein, 3 semaines de discussion, ça n'est pas rien, au conclave sur les retraites qui devait être, d'où la déception, sans totem ni tabou, avait dit Bayrou. Donc on parle des retraites, on parle de la réforme des retraites qui a mis tant de Français dans la rue, et on en parle sans totem ni tabou. Pas même sur l'âge de départ, avait-il dit. Pourquoi donc, question, c'est LA question ce matin, pourquoi donc le Premier ministre a-t-il, au détour d'une interview télé, brandi le tabou d'un retour aux 62 ans comme âge légal de départ à la retraite en disant 62 ? Non, ça ne va pas être possible, quoi. Sans doute pour répondre à la pression, répond Libération, venue de son propre camp, et notamment d'Edouard Philippe, qui avait jugé hors sol la discussion entre syndicats et patronat. Edouard Philippe, qui avait estimé que ce genre de discussion n'avait aucun sens, était surréaliste et... c'est quoi le terme à la mode ce matin ? Surréaliste et... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Et vulgaire même peut-être, il aurait pu dire ça. Hein, d'autant plus critique que le président balaie toute augmentation d'impôts. Au-delà de la délicate question du financement du système des retraites par répartition, ce nouvel épisode pose la question de la valeur de la parole politique. Ah oui, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant, c'est-à-dire moi qui déplore depuis très longtemps la démonétisation de la parole politique, c'est une parole politique dans laquelle les Français n'ont plus beaucoup confiance. Bon, ça c'est pas topissime. Pourquoi avoir promis un débat donc sans totem ni tabou ? Pourquoi avoir les yeux dans les yeux ? Promis que ce conclave était une manière de remettre le dialogue social au milieu du village politique ? Ouais. Pourquoi dire comme Elisabeth Borne qu'on a toujours raison de faire confiance aux partenaires sociaux si en réalité ces phrases n'ont aucune valeur ? Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, qui peut remercier François Bayrou, léchera les babines en se disant, écrit Libération ce matin, « Bande de naïfs, on vous l'avait bien dit, ce conclave était une supercherie. » bien sûr, sauf que personne n'a en fait à gagner au fait que le baratin des uns nourrisse la radicalité des autres. Il suffit de participer à une discussion en famille ou entre amis, de se balader et d'écouter des conversations sur un marché pour s'inquiéter du désamour politique que les uns et les autres alimentent. Les conditions d'adoption de cette réforme que les Français ont toujours rejetées, que ce soit en manifestation ou dans les enquêtes d'opinion, réforme des retraites, avait contribué à nourrir ce fossé mortifère. L'insincérité sur le sens de ce conclave risque de poursuivre ce travail de sape démocratique, tout l'inverse de ce dont on a besoin. Ce que regrette Paul Quignot ici, c'est que Bayrou revient finalement sur sa parole, quoi. Je vous lis. « Bétarame, oui, il y a l'affaire Bétarame avec Bayrou dont on a parlé aussi, tu as raison. Alors, rentrons un peu dans le détail de tout ça, quoi. Est-ce que les accusations qu'on entend contre Bayrou sont fondées ? Article de Franz Durupt dans Libération ce matin. On pense aux épisodes de Bibi Pécoyotte. Tout le monde connaît ? Moi, ce matin, je suis sur YouTube. Hein. Ce matin, c'est divertissement. L'actualité est trop triste, tout non. Ok. Bibi Coyote. Excusez-moi. En ce moment, j'ai envie de... un peu de légèreté. Ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures. La blague est dure 2 heures. Il est où Bip Bip? Ça, c'est Coyote, ça. Ah, quand même. Le bip bip, il est insane. Bip bip. Mais... Excusez-moi, je vais au bout.
Ouch.
Bip bip. Bon, voilà, excusez-moi, en ce moment j'ai besoin de légèreté, parce que l'actu est dure quand même. On y retourne. Voilà. Mon père se l'est tatoué carrément. Satch, ton papa, il a un bip bip tatoué. C'est incroyable. Donc, on pense aux épisodes de Bip Bip et Coyote, comme ça on va bien comprendre la rêve de Libé, dans lesquels le second se fait écraser par le rocher qu'il vient lui-même de projeter, et là, ça l'aide d'une catapulte mal réglée. Ah, ok. Là, on comprend bien la rêve, là. Dimanche sur France Inter, François Bayrou s'est lancé dans un vibrant plaidoyer pour le dialogue social contre les multiples attaques dont il fait l'objet depuis la fin février. Le conclave, hein, c'est le nom que lui-même a donné à cette délégation paritaire permanente, au sein duquel patronat et syndicats peuvent retravailler à la réforme des retraites 2023. Merci Arthur Rizio du soutien. Dernière offensive en date, celle d'Edouard Philippe, qui a estimé ses débats hors sol, avec l'arrivée au premier plan de la question d'un effort de défense sur fond de lâchage de l'Europe par les États-Unis face à la menace russe, vous le savez, on en a parlé. Jusqu'à maintenant, cette pression mise par tout ce que le pays compte des partisans du « il faut travailler plus » n'a pas empêché les discussions censées durer jusque fin mai, ça discute sérieusement en vrai, de se tenir 3 jeudis d'affilée dans un énorme bâtiment ministériel du 7e arrondissement de Paris et dans une sérénité totale, dit le chef de file de la Confédération des petites et moyennes entreprises la semaine dernière. Donc ça se passait plutôt bien. Merci grande madame pour le prime, c'est drôle. Notamment sur l'effort de guerre à faire de la part de la France, le fait qu'on doit se réarmer, non pas démographiquement, mais pour pallier l'absence de soutien des États-Unis. Vous aviez la négociatrice de la CFTC qui disait « Ne mélangeons pas tout, on ne voit pas pourquoi ce serait la protection sociale et plus particulièrement le dossier des retraites qui viendrait faire un effort financier pour réarmer le pays ». Et puis ce conclave, donc le mot là, conclave, c'est d'origine religieuse, conclave, non ? Excusez-moi, ce matin je suis en mode nuit de la culture. C'est pas d'origine religieuse, conclave ? Je crois que oui. Hein. Conclave, je dirais conclavé avec la clé. J'ai un souvenir de latin. Le conclave, mot dérivé du latin cum et clave. Là, je suis en mode étoile, je suis en mode rayou. Là. Littéralement, avec clé, désignant en latin classique une pièce fermée à clé, et pour l'Église catholique, le lieu où sont enfermés les cardinaux rassemblés pour élire le pape pendant la période de vacances du siège pontifical. Ah bah, c'est un peu d'actualité, là, bientôt. Par extension, il désigne aussi l'Assemblée et son travail. Ça vient de là. Donc en fait, conclave sont des gens qui se réunissent pour discuter d'un truc, et ils ferment à clé pour être bien tranquille, pour qu'on les embête pas, quoi. Donc c'était ça. Donc ça c'est bien d'origine religieuse, effectivement. Donc, ce conclave, donc, c'est lui, François Bayrou, qui l'a lancé pour solder le débat sur les retraites, que les macronistes et leurs alliés se traînent depuis le passage en force de 2023, 49-3 à l'époque, hein, vous savez que ce texte n'a jamais été voté, sur un report de l'âge légal de départ à 64 ans, mais aussi pour s'épargner la participation du PS à une motion de censure. Face aux critiques d'Édouard Philippe, le Premier ministre a estimé qu'on s'est trompé depuis des années en écartant les partenaires sociaux, et que nous avons besoin des corps intermédiaires. Donc le gars, il est pour la discussion. Hein. Il dit, lâchez-nous les basques, la droite, l'Edouard Philippe, laissez-nous discuter. Bon, ok. Puis, l'instant d'après, le mot qui gâche tout, estime Libé. Alors qu'on lui demandait, donc sur France Inter dimanche, manifestement, si un retour aux 62 ans à l'issue des négociations était envisageable, François Bayrou répond sans la moindre hésitation apparemment, il dit non. Alors, déception, quoi. Incompréhensible pour la CFDT, qui relève auprès de Libé que tout, soi-disant, était sur la table, et que c'est le Premier ministre qui vient de changer cette règle. Trahison, désengagement, dit-on du côté de la CGT. Hein, puisqu'il l'avait déclaré le 14 janvier, Bayrou, discussion sur les retraites sans totem, sans tabou, même sur l'âge de la retraite. Erwin, merci pour le prêt, mon ami. Ouais. Donc il y a pas ça d'eau, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sur France Inter toujours, Bayrou essaie de s'expliquer. Pour le Premier ministre, les représentants qui participent donc au conclave savent très bien quel est le rapport numérique, Kesako. Autrement dit, l'état du déficit. Ce dernier atteindrait, selon le rapport de la Cour des comptes, commandé par Matignon en vue du débat, près de 6,5 milliards d'euros en 2030, 15 milliards d'euros en 2035, et ce malgré la réforme de 2023, dont l'abrogation complète coûterait 10 milliards d'euros. Selon les calculs, La réforme qui a mis tant de gens en colère en France, elle n'est pas suffisante. Elle ne serait pas suffisante, puisqu'on partirait vers un déficit aggravé de 15 milliards d'euros en 2035. Revenir aux 62 ans, donc, ce n'est juste pas réaliste, a notamment dit la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Voilà. Ces fameuses données dont on parle, dont je viens de vous parler. Moumou Reine des Mouettes, bonjour, comment ça va? Les nouvelles sont réjouissantes aujourd'hui? Non, c'est pour ça qu'on regarde des petits dessins animés ce matin de temps en temps. Ces données, ces chiffres dont je viens de parler, n'ont pourtant jamais fait peur aux syndicats qui font un saut de propositions financières en disant, je pense, qu'un autre chemin est possible, hein, je suppose. La CGT estime avoir près de 40 milliards d'euros sous le coude. J'aimerais avoir, personnellement, 40 milliards, ou même un milliard. Même un milliard. D'euros sous le coude, 40, pour peu que l'on mette à contribution les revenus de l'intéressement. Et de la participation. Qu'on taxe les dividendes versés aux actionnaires ou qu'on pénalise par une surcotisation les entreprises qui n'ont pas un score de 100 à l'index de l'égalité homme-femme. Problème, le MEDEF refuse par principe toute hausse du coût du travail. Merci Valsnoum 75. Ainsi, si le premier mouvement patronal était favorable à une retraite, à une remise en cause des 64 ans, ce serait pour... Alors, j'apprends que le MEDEF serait OK pour revenir sur les 64 ans. Ah, mais pas pour diminuer, pour augmenter, j'avais pas compris. Ouais. Comme l'a laissé entendre son président, Patrick Martin, en citant en exemple le Danemark, le fameux exemple danois, hein, qui pourrait passer prochainement à un âge légal de 70 ans. 70 ans. Eh, supprimer la retraite. Supprimer la retraite, ça ira plus vite. À 70 ans. Eh, voilà les économies. Supprimer. Laissez-nous cotiser pour la retraite, puisque vous avez laissé cotiser pendant des décennies pour la retraite, et supprimez-la. Gardez la thune. On vous mettra même un pourboire avec. 70 ans. 70 ans. Déjà, on comprend plus ce que je dis dans la revue de presse, j'ai du mal à articuler. 70 ans, les gars. Putain. Hein. Au cours des deux dernières réunions, le MEDEF a d'ailleurs lancé des réflexions autour d'un relèvement de l'âge d'annulation de la décote, voilà, ou d'un durcissement du mécanisme des carrières longues. Ben oui. Mais oui. Voilà. Donc ça, c'est pour le MEDEF. 70 ans à la Zidane, le SAMU, ben oui, ben je ne vais pas avoir le choix, les gars. Je ne vais pas avoir le choix. Je ne vais pas avoir le choix. Ouais. En réalité, les hommes, ils sont presque déjà à la retraite de 70 ans. Ben moi, ma retraite, c'est 67 ans, par exemple. Si le système ne change pas avant que j'arrive à la retraite, dans 15 ans, autant dire qu'il aura changé à peu près 10 fois, là, je pars à 67, moi. Je serai plus étanche. Hein. Je serai plus étanche. Puis ce sera sans doute un petit peu plus, je pense. Ouais. Ah ben, ça va être beau, l'ambiance en live. Quoi, ça ? Alors ? Ah. Alors ! Ça va être incroyable. Déjà que c'est pas toujours compréhensible. Putain, les gars, j'ai quel âge ? C'est dans 15 ans, quoi ? En gros, quoi ? 15. Ouais, 14 ans ? Vous imaginez, en 14 ans, déjà, on a du mal à comprendre ce que je raconte en live, quoi. Hein, vous avez, pardon, hein, j'ai beaucoup de respect pour Joe Biden, mais vous avez vu la fin du mandat de Joe Biden. Hein, bon, c'était plus, tout n'était pas compréhensible. Bon, bah voilà, bah, en stream, ce sera ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Hein. Voilà. Je vous lis, 10 minutes après, la bave qui coule et tout. Mais oui, Diesel. Mais oui. Mais oui, voilà. Puis, qu'est-ce qu'on veut ? Que je meure en live ? C'est ça qu'on veut ? Hein ? Voilà. Donc, alors, les syndicats, maintenant, tout ça. Tu vas te mettre à parler comme Jean-Paul II, bah oui. Hein, ah oui. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, je me rappelle ça. Hein ? T'entends, il faisait un mot plus fort. Bon, alors les syndicats, ils en pensent quoi ? Déjà périlleuse pour les syndicats, la discussion risque de devenir quasiment impraticable. En agissant ainsi, François Bayrou prend fait et cause pour les employeurs au détriment des travailleurs et hypothèque gravement l'avenir de la concertation, disent-ils. Waouh. Signe que le patronat y voit une occasion de pousser son avantage. La CPME, autre syndicat patronal, s'est fendue de son propre communiqué lundi pour dire que stopper les discussions serait une erreur au moment où elle défend, elle, la capitalisation financée par le travail et l'âge de départ indexé sur l'espérance de vie. Dans ces circonstances, à quoi bon rester pour les syndicats, quoi ? La CGT va étudier la question aujourd'hui. La CFDT attend de voir si le Premier ministre va confirmer ses propos. Dans un monde où il n'aurait pas fait attention à ce qu'il avait dit. Merci pour tous les follow, Pablo, Oman, Férologie, ça vaut, salut. C'est tendu, quoi. Et du coup, le PS est aussi un petit peu mal à l'aise, explique Libération, c'est dans l'article du dessous. Il y a Ojo qui dit ce qui se passe, c'est qu'au Danemark, le Danemark où on va passer 70 ans, là, ils font des journées de 7h30 à 8h. Quoi ? Ils bossent de 7h30 à 8h ? Et de quoi ? 14h30 à 15h ? Hein ? Quoi ? Attends, je comprends pas. Ils bossent quoi ? Ils bossent deux demi-heures par jour ? Hein ? Je l'ai pas, Ojo, là. Ils font des journées... Attends. Ah, non ! Ils font des journaux de 7... ils commencent à 7h38. Ils embauchent à 7h38, ils finissent à 14h30, 15h. Ah ouais, attends, j'ai l'impression qu'ils bossaient deux fois une demi-heure. Et je me dis, ouais, c'est... Putain, je vais aller au Danemark, en fait, moi. Ça me fait un effort. Oui, bah, je vous ai déjà dit que j'ai du mal, déjà, à présent, imaginez, dans 15 ans, quoi. D'accord. Ils font des plus petites journées que nous, quoi. Mon ami qui travaille au Danemark commence tôt le matin, il a peu de pause le midi, il termine à 15-16 ans maximum. Ok. Ça me fait un effort, bon, ouais. Profitez, parce que quand je serai en stream dans 15 ans, vous verrez, ce sera pas facile. Hein. J'ai habité longtemps au Danemark, me dit Flifina, et oui, ils finissent beaucoup plus tôt pour récupérer les enfants à l'école. C'est cool, ça. Et en Allemagne, me dit Lazareth, beaucoup de jobs sont sous ce format-là, 8h30, 16h. Ok. Je te remercie, Felsnoop. Je sais plus. Merci beaucoup. Donc, Le PS aussi un petit peu gêné aux entournures. Hein. Compromis, le PS est de nouveau sous la pression de la gauche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je bosse pour une boîte allemande en France et c'est ça. Pas mal ça, Red L'Impact. Après l'évacuation du sujet de l'âge de départ à la retraite par Bayrou, la gauche dénonce une trahison. Et les socialistes, à l'origine de ces discussions, se voient reprocher leur naïveté, je suppose par LFI, hein, je suppose. L'embarras revient comme un boomerang vers le PS. Un mois après sa décision de ne pas censurer le gouvernement sur le budget, et alors que les critiques émanant du reste de la gauche venaient tout juste de cesser, Bayrou replonge le PS dans une situation délicate. Draculos me dit dans le chat, mon père a Alzheimer à 70 ans, il aurait eu quelques années de repos, ça me fait rire les débilités de ces gens au gouvernement qui n'ont jamais vraiment taf, quoi. J'ai perdu ma maman assez tôt. C'est pareil, elle a cotisé toute sa vie, puis elle n'a pas profité non plus, quoi. Ah, bon. Les partenaires sociaux tentent de trouver un nouvel accord sur la réforme des retraites, dans le cadre d'un conclave arraché par les socialistes au cours des négociations sur le budget. Ah, c'est les socialistes qui sont à l'origine de ça. Mais le Premier ministre a évacué l'hypothèse de départ à la retraite à 62 ans. C'est l'âge légal de départ à la retraite. Hein. Après, il faut les années de cotisation. Hein. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est 64 ans, si je dis pas de bêtises. Mais comme tous ceux qui ont fait des études supérieures, moi, je partirai pas avant 67 ans. Donc attention, quand on dit 62, c'est l'âge de départ légal à la retraite. Pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, finalement, évidemment, il faut les années de cotisation. Quoi. Après des discussions sans fin avec le gouvernement, le PS avait décroché l'organisation de ces nouvelles discussions. À l'époque, déjà, beaucoup à gauche dénonçaient une farce, prédisant que le conclave n'était qu'un hochet accordé aux socialistes. Parmi eux, les insoumis, qui peuvent désormais dire qu'ils ont eu raison. Voilà. Ikana me dit, mes deux parents décédés avant l'âge légal à la retraite, super, la vie de boulot, quoi. Ah ouais. Bayrou vient de mentir, de trahir son engagement sur les retraites, exactement comme nous l'avions prévu, a notamment dit Mathilde Panot, hein, la LFI. Hormis le PS, dit-elle, qui peut être suffisamment naïf pour considérer qu'un macroniste de la première heure allait revenir sur la réforme ? Du coup, tension, la question d'une nouvelle motion de censure contre le gouvernement Bayrou se profile. Les discussions, les déclarations du Premier ministre sont à l'évidence un motif de censure du gouvernement, a affirmé le député apparenté écologiste François Ruffin. Olivier Faure, du côté du PS, François Bayrou vit dans l'illusion que nous ne le censurerons pas. Oui, il est plus chez LFI, Ruffin. Il est plus chez LFI, ouais. Il s'égare, nous avons sanctuarisé le budget, mais pas sa place. La perspective de nouveaux remous politiques réanime l'hypothèse d'une dissolution. Vous voyez, on revient toujours à ces sujets. Un an après les dernières législatives anticipées, hein, ça pourrait avoir lieu à partir de juillet. Un scénario qui pourrait tourner la catastrophe pour la gauche, qui se déchire depuis des mois. On parlait des divisions de la droite, mais au niveau de la gauche, c'est pas mal aussi. Serait-elle capable, en une fois, contre toute attente, de surmonter ces divisions pour faire front. Je vous lis. Lazareth me dit, je crois que la génération de trentenaires actuelle a quasiment intégré le fait que la retraite ne sera pas atteignable pour elle, que ce soit par carrière fragmentée ou parce que le système par répartition ne fonctionnera plus. Longtemps, j'ai pensé que ça concernait les plus jeunes, notamment une grosse partie d'entre vous. Et même moi qui suis un vieux machin, je me demande effectivement si même pour les vieux schnocks comme moi, il y aura aussi une retraite, quoi. 15 ans, c'est dans longtemps quand même. Les insoumis ont raison, le calcul n'est pas bon, Kevin. Me dit son gougou. Mais je crois que c'est François Bayrou, c'est pas Kevin Bayrou. Kevin Bayrou, c'est son cousin. Je crois. Dans 4 ans, ta retraite ? Ah bah non, non. Non, ma retraite, c'est dans 15 ans. « Mais du coup, on nous remboursera ce qu'on a cotisé. Bah oui, Ratax, c'est ça. C'est ça la blague. C'est ça la blague. Voilà. J'ai 36 ans dans 3 semaines, me dit Gilous. Effectivement, je fais de plus en plus le deuil de ma retraite par répartition. Je dois me débrouiller pour capitaliser ailleurs. Elle est technique, mais je salue. Parce qu'à la fin, de toute façon, on sait que la technique de la retraite, ça marche pas comme contraceptif. Elle est technique. Elle est technique. Elle passe, c'est validé. Si, c'est validé. Du coup, la génération des 34-40 ans vont devoir cotiser pour la répartition et par la capitalisation super, la double cotisation. Sparrow meurt, vous cotisez pour vos parents ou grands-parents. Les actuels retraités, pas pour vous. Oui, c'est ce qu'on appelle la retraite par répartition, mais je pense que 99% des gens le savent ici. Quoi. On est sur une chaîne Twitch de connaisseurs, hein, de l'actu. Hein. On n'est pas des zozos ici. Quoi. C'est quoi la répartition, dit Pop ? Alors Pop, la répartition, tu ne cotises pas pour toi. Ce qu'on appelle les cotisations retraite sur ta feuille de paie, là, c'est pas pour toi, c'est pas des cotisations que tu mets de côté pour plus tard. En fait, tu finances la retraite des gens qui sont actuellement à la retraite. Imaginons, tu as 32 ans, tu travailles, voilà, il y a une part de ton salaire qui part en cotisation retraite, ça n'est pas pour toi, c'est pour financer les gens qui sont actuellement à la retraite. C'est la retraite par répartition, c'est de la solidarité. Et le principe, c'est que toi, quand tu seras à la retraite, eh bien, ta retraite sera financée par les actifs du moment. Voilà. Voilà. C'est un pacte de solidarité entre générations. C'est comme ça que ça marche. Du coup, quand on a une pyramide démographique qui n'a pas une belle gueule, à un moment, en France, on faisait beaucoup d'enfants, et puis après, on a commencé à faire moins d'enfants. Hein. Et du coup, bah, tu as moins d'actifs pour financer beaucoup de gens qui sont à la retraite. Voilà. Alors, les optimistes vont dire que c'est un mauvais moment à passer, puisque des gens très nombreux qui ont fait finalement pas beaucoup d'enfants arrivent à la retraite, et bah, du coup, bah, pendant 30 ans, c'est super compliqué. Et après, bah après, ça s'équilibre à peu près, puisque en gros, les gens qui n'ont pas fait beaucoup d'enfants, les enfants de ces gens, à moins qu'ils se remettent à faire des bébés comme des lapins, a priori, c'est pas reparti. Hein, c'est plutôt en train de continuer à diminuer. Bah, normalement, à un moment, ça s'équilibre à peu près. Quoi. Voilà. Bon, ça, c'est prévisible depuis des décennies. Hein. C'est juste que ça n'a pas anticipé. Quoi. Voilà. Donc c'est ça. Hein. Après, il y a Poum qui dit la retraite c'est bien, mais n'attendez pas d'y être pour être heureux. Il peut vous arriver n'importe quoi. D'ici là, le bonheur c'est maintenant. C'est une sage philosophie. Dis-nous, Samuel, comment on fait les bébés ? Comment on fait les bébés? Attends, c'est une drôle de question quand même. Comment on fait les bébés? Attends, je tape. Comment on fait les bébés?
Qu'est-ce qu'elle fait?
On passe le...
J'étais très nul.
C'est quoi ça? C'est pas ça. Je cherche une vidéo. J'ai tapé comment on fait les bébés. Je regarde. Faut planter des choux dans le jardin et tu... Hein, quoi ? Avec un bol et une bouteille de lait, j'ai pas la ref. Hein, quelle bouteille de lait ? Je comprends pas. J'ai pas la ref.
Papa. Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?
Eh bien,
Ça.
Ça, c'est ta mère.
C'est ta mère.
Ça, c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Suffit de demander.
Et demain, Lactène vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactène Cacao.
Désolé.
Papa.
Désolé. Donc voilà. N'hésitez pas quand vous avez des questions dans le chat. J'ai en général la réponse, même si elle n'est pas toujours pertinente. Ouais. Mais si, on est en plein dans votre presse, Étienne. Mais on parle de comment on fait des bébés. C'est important aussi. C'est important, hein. J'ai cliqué sur revue de presse, j'arrive pour ça, mais non, mais attends, c'est important de savoir comment on fait des bébés. Hein. Merci Bertoche pour le deuxième mois. Alors, on a eu. Je vais mettre un petit coup de chauffage parce que j'ai fait trop froid ici. On a eu le regard de Libération, journal de sensibilité plutôt de gauche sur le sujet. Et bon, on va aller voir maintenant un regard plutôt conservateur, plutôt de droite. Du Figaro sur le même sujet. Vous voyez la bascule, c'est intéressant. Double regard. Ce qu'on appelle le DR, dans le jargon. Je me mets un petit coup de chauffage. Peut-être me faire un petit, je sais pas. J'attends le 1. Je n'ai pas compris comment on fait les bébés. J'arrive. Ou un petit whisky chaud. Ouais. J'arrive. Je fais le malin, je mets pas de chauffage, mais en fait ça caille quoi. Alors, suspense, qu'est-ce que je me suis servi? Est-ce que c'est un thé? Est-ce que c'est un whisky chaud? Est-ce que c'est un demi? Il y a un petit peu de mousse si vous faites attention. Voilà. Est-ce que je bois mon propre pipi pour des raisons que ce serait bien que je retrouve ça dans un blog sur Facebook? On sait pas. Ça c'est suspense. Voilà. Ok. Suspense. Merci Wawanino pour le soutien. Wars dit ou un mélange de tout ça. Le Figaro, retraite Bayrou, braque la gauche et les syndicats. Pour l'instant, le constat est le même, quoi. Ok. François Bayrou a une nouvelle fois surpris tout le monde dimanche quand il a dit non à un retour du départ à la retraite à 62 ans. Merci, Hey Ham Bandit, pour le prime. Aux idéaux, la gauche, les syndicats se sont indignés de l'aveu du Premier ministre au point de susciter les inquiétudes sur la suite de la concertation entre partenaires sociaux. Après, on reparle du risque de motion de censure. Dans le camp gouvernemental, on préfère souligner que les propos de Bayrou relèvent du bon sens et de brandir le rapport rendu en février par la Cour des comptes qui prévoit toujours une aggravation du déficit du système des retraites, même en maintenant l'âge de départ à 64 ans. Alors, l'édito de Gaëtan de Capelle va sans doute s'éloigner de l'analyse de Libération. Hein, mais c'est ça qui est intéressant, justement. Résumons. Samuel, tu vas t'inscrire à la ZILAN? Attends, faut que je fasse un. Non, les gars, faut que je fasse un. Les modos, c'est pour les modos, là. Je vais faire un bot parce que les modos, ils vont péter un câble. Je vais faire une commande, là. Alors, attends. New commande. Hop, ZILAN. Point d'exclamation, ZILAN. Vais-je participer à la ZILAN 2025 point interrogation. Je ne sais pas. Le ZILAN est déjà pris? Ah oui, le ZILAN. Ah, le ZILAN, c'est. Je vais changer l'ancien ZILAN. Je ne vais pas l'enlever, parce qu'en fait, j'ai. Le point d'exclamation ZILAN renvoie au petit documentaire, au petit reportage que j'avais fait sur ma première participation, qui est toujours disponible sur YouTube et en vrai, qui était assez cool en vrai. tu devrais laisser le pouvoir à tes modos de créer tes commandes. Non, non, c'est des fous, c'est des psychopathes, ils vont me faire des commandes. Ils vont me faire des commandes illégales. Non, 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 t'es fou, toi. T'as d'autres propositions comme ça? Toi, regarde, sugarfrog, point d'exclamation, zizi. Voilà les modérateurs. Voilà les modérateurs. Voilà les modos. Voilà les modos. Hein? Point d'exclamation, caca. Voilà. Voilà. Point d'exclamation, pied. Voilà. C'est ça. Voilà. Je ne peux pas leur laisser ce pouvoir. Je ne sais pas. Je les connais comme si vous avez fait. Je ne sais pas. Je suis en train de tester les jeux avant de prendre ma décision. J'ai l'impression que je parle de la présidentielle, quoi. Hein. Et puis, je dois aussi trouver un ou une teammate. Teammate. Comment on écrit teammate? Ah, c'est avec deux M, c'est ça, ouais. Eh oui, c'est deux M. Ah oui, teammate, ok. Teammate. Je trouvais ça bizarre. Teammate. Non, il y a deux M, il y a deux M. Les gens qui mettent qu'un seul M. Il y a deux M. Teammate. Teammate. Voilà. C'est marrant ça d'ailleurs, j'aurais pas écrit ça comme ça moi. Ok, d'accord. Teammate. Voilà. Autre souci. Le manque de temps pour m'entraîner. Ce qui freine mon talent naturel époustouflant dans la pratique des jeux vidéo. Voilà, je relis. Vais-je participer à la Zidane 2025? Je ne sais pas, je suis en train de tester les jeux avant de prendre ma décision et puis je dois aussi trouver un ou une teammate. Autre souci, le manque de temps pour m'entraîner, ce qui freine mon talent naturel et époustouflant dans la pratique des jeux vidéo. Ok, ça c'est pas mal. Je reviens en arrière, je vais changer l'autre Zilane que je vais appeler... L'autre Zilane, je vais l'appeler Zilane 2024. Ah, voilà, update. Voilà. Et maintenant, je vais créer une commande Zilane. Donc, le doc, c'est Zilane 2024. Et maintenant, si vous faites point d'exclamation Zilane dans le chat, boum! Vous avez tout ce qu'il faut. Bah, comme ça, les modos, quand quelqu'un m'interroge sur la Zilane, bim, bim. De toute façon, t'as autre chose à faire que de participer à un tournoi avec seulement 44 cash prize, toi qui es multimilliardaire. Merci Chelo Chias Dolex. Merci pour cette analyse assez pertinente. Ouais. Ouais. Ah, moi aussi, j'aurais adoré refaire la Timas, bien sûr. Alors, je reviens au Figaro qui parle donc d'un déni de réalité sur les retraites. Résumons. La Cour des comptes, du moment mandaté pour éclairer le débat passionnel sur les retraites, vient nous annoncer la couleur malgré la réforme ONI détestée, AI, de 2023. Le système sera déficitaire dès cette année, puis continuera de se dégrader continuellement au-delà de 2030. Pour ceux qui préfèrent les mots simples aux explications techniques, il est virtuellement en faillite. Et encore, ces estimations ne prennent-elles pas en compte les 42 milliards d'euros versés par l'État à les collectivités pour payer les pensions de la fonction publique non couvertes par les cotisations? Mais il paraît qu'il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. Les contribuables apprécieront. Le Figaro fait un peu d'ironie ce matin. Merci Energix pour le 43e mois. Tu régales en vrai. ONI, oui, H-O-2-N-I, c'est détesté, AI, tout ça. Les contribuables apprécieront. N'importe où ailleurs qu'en France, cet état des lieux dévastateur mobiliserait toutes les forces vives du pays pour sauver le système, épargner aux générations futures un tel fardeau. Tous nos voisins s'y sont résolus. Chez nous, il se trouve encore une majorité de parlementaires pour vouloir abroger la réforme Borne, c'est-à-dire, entre autres, revenir à 62 ans. Les syndicats considèrent que les retraites sont un prétexte pour détricoter notre modèle social. C'est dans cette atmosphère de déni de réalité que François Bayrou, soucieux de s'attirer les bonnes grâces du PS, a eu l'étrange idée de proposer aux partenaires sociaux un conclave, un conclavé, pour, on l'a vu tout à l'heure, améliorer le texte de 2023. Étrange, car le Premier ministre a toujours porté un regard lucide sur la question des retraites, estime le journal, dénonçant souvent la faute morale qui consisterait à en transmettre la charge à nos enfants. Rouvrir le débat, c'était à coup sûr rallumer la flamme, merci beaucoup Founti pour ce 39e mois, et arrive aujourd'hui ce qui devait arriver, le constat qu'aucun retour en arrière, merci Founti pour le message, n'est possible, bien au contraire, a fortiori, lorsqu'on cherche des dizaines de milliards pour se réarmer. Le scandale n'est pas que François Bayrou l'ait dit, mais que des gens supposément responsables contestent, reste une leçon à méditer, même pour un virtuose du billard à trois bandes. Le sujet des retraites demeure un piège, on s'échine à en faire un débat politique, il ne relève désormais de rien d'autre que de la pure arithmétique, nous dit le journal. Déni de réalité. Ah, je peux faire ça, c'est incroyable. Je savais pas que je pouvais faire ça. Comment je fais ça? Je ne sais. Ah, j'arrive plus à le faire. Incroyable. Déni de réalité, titre, Le Figaro. Ok, d'accord. Chazora dit étrange idée de demander l'avis aux gens et de corps intermédiaires en démocratie. Quelle faute! Samuel, est-ce que tu vas react cette semaine au passage d'étoile à la question pour un champion avec lui? Oui, Wintrad. Vendredi, non, samedi, 22, donc samedi prochain, 18h10. Étoile passe enfin dans question pour un champion. Ça fait des années, 4-5 ans qu'on attend ça. 18h10, on regarde sur France 3, dans la foulée, je react son passage. Voilà, et on en parle ensemble, oui, samedi soir. On est à quoi, J-4, c'est ça? Je vous lis sur le sujet dont nous sommes en train de parler. Début du stream à quelle heure samedi du coup? Je dirais vers 19h. Vraiment dans la foulée de l'émission, quoi. Ouais. Alors, continuons ce dossier du Figaro sur le sujet. Bon, là, en fait, ça va nous rapporter les infos que Libération a déjà données. Ouais, l'édito nous a donné un petit peu... Donnons la parole à un homme de droite, donc élu LR, Olivier Marleix, député LR... Député ou sénateur, parce qu'il est parlementaire. Bon, bref, élu LR. Dorian Sergius. D'Eure-et-Loir. Le Premier ministre a raison de ne pas revenir sur les 64 ans, dit-il. Quels sont ses arguments? C'est ça qui nous intéresse. Pour le parlementaire, la fragilité financière du système ne permet pas de revenir sur l'âge légal de départ à la retraite. Comment jugez-vous le travail de François Bayrou? Il est trop tôt pour tirer un bilan, mais je garde une inquiétude sur la maîtrise des finances publiques, dit-il, parce qu'il a beaucoup cédé pour faire passer le budget. Donc il parle du narcotrafic, nous aussi on y reviendra à un moment. Merci Gros Bob du 31 pour ton message et pour ton soutien. Comme les OQTF, je pense que demain on trouvera un article un peu carré là-dessus. Voilà, ils font tout le passage en revue, moi je vais sur la retraite. Les urgences budgétaires, notamment le fait de devoir réarmer la France et l'Europe. Merci Clément Dignot pour ton soutien. Doivent-elles impacter les retraites? Il dit non. Il y a beaucoup d'autres économies à aller chercher, notamment à tous les étages. Voilà, les retraites, blablabla. Mais Donc il dit non, on ne touche pas à la retraite, mais on ne revient pas en arrière. La fragilité financière du système ne le permet pas. Oh, bah, il dit, d'accord. Je pensais que c'était un peu plus étoffé que ça. C'est très léger. Alors, ça c'est intéressant. Guillaume Tabar. Pourquoi Édouard Philippe ? Édouard Philippe, donc, il lui justement a mis la pression sur Bayrou pour qu'il arrête de dire qu'on puisse revenir en arrière. Pourquoi Philippe fait une percée sur les retraites ? Là, on va peut-être apprendre des choses intéressantes. François Bayrou vient-il de donner raison à Édouard Philippe ? En fermant la porte à un retour à 62 ans comme âge de départ, légal toujours, hein, je dis, le Premier ministre a validé... Excusez-moi. Attendez, je dois écrire à quelqu'un. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Je l'écris tout de suite. Voilà, c'est réglé. Bon, donc, les arguments. Donc, Bayrou a-t-il donné raison à Édouard Philippe ? En fermant la porte à un retour à 62 ans comme âge de départ, le Premier ministre a validé le jugement sévère de son prédécesseur sur un conclave sur les retraites devenu complètement hors sol. Ce que pointe Philippe, Édouard Philippe, c'est bien le vice de forme d'une équation impossible. Bayrou avait beau marteler que rien ne devait conduire à dégrader plus encore l'équilibre financier du système, ceux dont il a négocié en échange une non-censure sur le budget, donc les socialistes essentiellement, n'ont voulu retenir que le son tabou ni totem appliqué, y compris à l'âge légal. Et le Figaro qui nous explique. Ce n'est pas un hasard si Édouard Philippe fait de cette question une balise. Sur son chemin vers la présidentielle, le patron d'Horizon avait mis sa griffe sur le projet initial d'Emmanuel Macron en ajoutant un âge pivot. Et quand Elisabeth Borne avait abaissé de 65 à 64 ans, vous vous souvenez, la proposition phare de sa loi, lui, Édouard Philippe, qui s'était prononcé pour un départ légal à 67 ans, Édouard Philippe, il n'a plus mis ce chiffre en avant depuis, préférant désormais défendre l'ajout d'un volet de capitalisation, mais Philippe est clairement identifié du côté de ceux qui n'envisagent pas de réarmement du pays qu'en travaillant plus. Il y a bien entendu une part d'agacement mutuel entre le Premier ministre de 2017 et celui de 2025. Le second avait qualifié d'anti-national l'idée que rien d'essentiel ne puisse se faire avant 2027. Le maire du Havre n'a pas désarmé en mettant à nouveau en garde contre le risque de renoncement, de peur, d'immobilisme. Parce qu'en fait, évidemment, parfois, derrière les positions politiques, il y a des arrière-pensées personnelles. Parce qu'il s'agira de succéder à un président qui aura effectué deux mandats successifs, Édouard Philippe, qui se projette vers 2027, vers la prochaine présidentielle, sait qu'il se doit d'informer une forme de rupture, comme Sarkozy, par exemple, en 2007. Mais comment tourner la page Macron sans renier une part de son propre bilan ? En ciblant un Premier ministre qui revendique son autonomie d'action et de méthode. Par la question du travail des retraites, Philippe tente de faire la synthèse entre le macronisme économique et la droite. Ce n'est pas non plus, bon, histoire aussi de, au niveau des votes, de rassembler tous ces votes pour une éventuelle élection. Ce n'est pas non plus un hasard si sur le terrain régalien, il s'est fait remarquer en réclamant la remise en cause de l'accord franco-algérien de 1968, sujet dont on va parler dans les prochains jours. Je cherche les bons articles. Ce matin, ce n'était pas le cas. Pas assez complet, pas assez précis, avec l'accord franco-algérien, les OQTF, tout ça, on va en parler. Même si dans la liste des référendums qu'il a proposé dimanche à Lille, il n'a pas envisagé sur l'immigration. Plus encore qu'avec les retraites, la règle d'or budgétaire, les ordonnances sur l'école ou la santé, c'eût été pour lui un moyen de fédérer un large électorat voilà pour ce positionnement politique d'Edouard Philippe. Excusez-moi. Excusez-moi, petit sujet. Voilà. Ça c'est bon, je vérifie encore un truc. Ok, c'est bon, c'est ok. Sam qui se retient de balancer la chaise à travers le bureau comme à la grande époque. Ah, le sang-froid par la sagesse. Non, non, ça va, c'est des petits sujets que je règle en direct, tout va bien. Tout va bien, c'est rien du tout. Voilà. Bon, c'est assez clair, mine de rien, les retraites, là. Bon, là, c'est un petit sujet, voilà, petit, mais c'était pas un... ça se règle tranquillement. Hein. Après, à mon âge, on sait à peu près où on va, quoi. Voilà. Donc, quand il y a des trucs à faire, on les fait assez vite, quoi. Voilà, oui, je viens de régler le problème des retraites, voilà, exactement. Voilà. Je voulais pas vous en parler, mais... Alors, Le Figaro, qui est plutôt, on va dire, pro, eux, ils diront réalisme budgétaire, et donc, surtout pas pour revenir en arrière sur la réforme des retraites, nous explique manifestement, via un article de Jean Citton ici, pourquoi le système est durablement déficitaire, malgré le passage de 62 à 64 ans, et je pense qu'on va nous parler du rapport de la Cour des comptes. Lisons. Pas de retour aux 62 ans. François Bayrou l'a dit ce dimanche, coupant l'herbe sous le pied de la conférence des parlementaires sociaux sur les retraites, blablabla, blablabla, toutes les infos, on les a. Revenir aux 62 ans, écrit ce matin le journal, ne ferait qu'aggraver l'inexorable déficit, et qui implique surtout des économies supplémentaires pour assurer la viabilité du système à long terme. La modification de l'âge légal de départ, 64 ans à l'horizon 2030 au lieu de 62 ans, avait suscité la colère de nombreuses organisations politiques et fait descendre, vous en souvenez, peut-être que vous en avez été, des millions de Français dans la rue en 2023. La mesure impopulaire était pourtant déjà insuffisante, le système plongera quand même dans le rouge dès 2025. Je n'ai pas dit sucer la colère, j'ai dit susciter très très vite. Comme je vieillis, je n'articule plus beaucoup. Oh, vous êtes de mauvaise foi, vous savez très très bien, c'est pas bien ce que vous faites. Le Monde, deux points, Samuel Etienne, du PAF, je sais pas à quoi, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont inventer encore. La mesure impopulaire était pourtant déjà insuffisante, écrit le Figaro, le système plongera quand même dans le rouge dès 2025. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, le dit depuis de nombreux mois, le rapport de la Cour des comptes commenté par Bayrou pour avoir une base de travail indiscutable, confirme que le système sera déficitaire de plus de 6 milliards d'euros par an dès cette année. Entre 2025 et 2030, les déficits devraient rester assez stables, explique Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Donc, 6 milliards d'euros de déficit par an dès cette année. Entre 2025 et 2030, déficit assez stable, dit la Cour des comptes, mais les vraies difficultés commenceraient après, à partir de 2035. 2035, je serai toujours pas en retraite, donc ça ne va pas du tout cette histoire. Hein. Le déficit annuel serait de 15 milliards d'euros en 2035, déficit annuel, hein, et de 30 milliards d'euros par an en 2045. La réforme de l'âge légal en 2023 représente une économie de 10 milliards d'ici à 2030. Revenir en arrière sur l'âge de départ impliquerait donc de trouver l'équivalent de ces 10 milliards, en plus de prendre des mesures pour endiguer le déficit déjà prévu. Selon la Cour des comptes, fixer l'âge de départ légal à 63 au lieu de 64 ans ne coûterait pas moins de 5,8 milliards d'euros au système de retraite, blablabla, blablabla, blablabla. Alors après, il y a d'autres solutions hein, que de travailler plus longtemps. Le levier qui paraît essentiel, par exemple, dit un économiste qui s'appelle Simon-Pierre Sanguérac, est celui de la désindexation des prestations, hein, qui rappelle que le niveau de vie des retraités en France est équivalent, voire supérieur au niveau de vie des actifs, c'est-à-dire une désindexation des pensions de retraite sur l'inflation. Et donc, ça veut dire bah, au fil du temps, non pas travailler plus pour financer les retraites, mais des retraites pour les retraités qui s'amenuisent, hein, pour dire les choses clairement. Quoi. Ceux qui cotisent vivent donc moins bien que ceux qui le font aujourd'hui. Par ailleurs, les cotisations sur le travail atteignent aujourd'hui un plafond et aller au-delà serait risquer un déclassement des actifs. La sous-indexation des pensions permettrait de juguler l'augmentation des coûts pour le système. Mais c'est un sujet également inflammable. La réduction du pouvoir d'achat des retraités, parce que c'est de ça dont on parle. Hein. Il y a Tollenor qui me dit les retraités votent en masse, donc ça n'arrivera jamais. La réduction du pouvoir d'achat des retraités pourrait les contraindre à piocher fortement dans leur épargne, alors que celle-ci sert actuellement à financer de l'activité économique. Ce n'est pas un petit magot d'or au fond du jardin, ton père Gilbert VII, tout en reconnaissant que toucher à cette épargne aurait un effet moindre sur la consommation qu'une hausse des cotisations. Pour l'instant, aucune de ces mesures ne fait donc vraiment consensus, mais une chose est certaine, si rien n'est mis en place, la viabilité économique du système de retraite ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Voilà. Je vous lis parce que ça m'intéresse ce que vous en pensez. Et puis on va accélérer parce que je prends trop de temps ce matin. Salut Samuel, pourquoi est-ce que tu restreins l'accès aux rediffs de la matinée Étienne ? Alors Wincock, ça n'est pas restreint sur YouTube, puisque dès le lendemain de ce live, tu as le rediff, le replay sur ma chaîne YouTube. En revanche, l'accès au replay est réservé aux abonnés, aux subs, parce qu'il faut bien qu'ils aient des petits avantages, ils n'en ont quasiment pas. Donc c'est une façon de distinguer leur statut, mais tu as les replays dès le lendemain. Voilà. Pour être transparent, actuellement, il y a 2178 abonnés à cette chaîne. Voilà, mais sinon, tu as le replay le lendemain sur YouTube de tous mes lives. Et puis, comme le rappelle d'ailleurs Newcat, tous les abonnés reçoivent aussi par mois des photos de mes pieds. Sans avoir à s'abonner à mon OnlyFans. C'est un espèce de pack promo, quoi. Une espèce de pack promo. Merci Wincock. Merci Asti. Ah bah, vous allez voir votre photo de pied bientôt, vous. Merci beaucoup. En tant qu'abonné, ai-je l'accès à l'eau de ton bain ? Me dit Simoroth. D'abord, tu n'es pas abonné déjà à ce jour. Et non, parce que je ne prends pas de bain. Je ne prends que des douches et des douches ultra rapides. Moi, je suis le roi de la douche rapide, moi. Merci Lilifus. Merci Staria Play. Merci Ambielo. C'est marrant, depuis que j'ai dit que j'envoyais des photos de Yep, C'est fou tous les. Merci Simorot. C'est sub sur sub. Hein. Depuis que j'ai parlé des photos d'Yep. C'est incroyable. C'est fou en vrai. Alors ça, si j'avais su, j'en aurais parlé avant, quoi. On va avoir un train de live grâce au Yep, quoi. Merci la Todd, ça continue. 31 mois d'abonnement. C'est fou ça en vrai. Bon, les retraites, on n'a pas fini d'en parler. En fait, je pense que les retraites, on va en parler tous les jours jusqu'à la fin de cette revue de presse sur Twitch, quoi. Dans 20 ans, on sera peut-être là encore de dire bon, bah les gars, ça va pas. C'est incroyable, quoi. C'est un chat de gros kiffeurs, exactement. Ouais. C'est exactement ça, c'est un chat de gros kiffeurs. Financer la retraite avec ses pieds, c'est malin, peut-être. Dans 20 ans, la retraite a son temps. Peut-être. Quand je regarde la revue de presse, me dit Barnangen, je suis toujours étonné du nombre limité d'articles sur l'écologie, à croire que le sujet n'est pas actuel ou pas important. La façon de traiter les sujets d'actu en France commence à déranger. Sache que d'environnement, on parle énormément ici, et les journaux en parlent énormément aussi, mais c'est pas tous les jours, ça dépend des jours. Non, mais pour ça, il faut être là tous les jours, mais je crois comprendre que tu arrives il y a très peu de temps. Merci Niamh 78 depuis le 4e mois, c'est ce que j'ai compris dans tes messages précédents. Ouais. La retraite, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais, son gougou. La petite dédicace à Jean-Claude. Exactement. Bon, quelle heure il est ? 11h18, j'avais prévu... Ouais, non, si, ça va. J'accélère un petit peu sur la politique politicienne. Bon, il y a à droite, il y a un enjeu, là, c'est la présidence de LR. Le parti de droite républicain. Avec un duo, j'avoue que moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un truc qui m'empêche de dormir, mais... peut-être qu'il y a des infos importantes. Donc Laurent Wauquiez versus Bruno Retailleau, duel sur fond d'élection présidentielle. Les candidatures à la présidence du parti, donc LR, seront closes aujourd'hui. Hein, s'il y a des gens qui veulent être candidats, Djoubi, si tu veux te présenter, confirme un affrontement entre le ministre de l'Intérieur, donc Retailleau, et Laurent Wauquiez, qui est président du groupe LR à l'Assemblée. Y a pas Lisnard aussi ? Ben, pas dans cet article. Peut-être qu'il en parle, je vais voir, je vais vous dire. David Lisnard, maire de Cannes, c'est ça ? Un fauteuil pour deux chez les Républicains. Au terme du dépôt des candidatures, ce mardi, les adhérents devront choisir entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Bon, manifestement, il n'y a pas David Lisnard. Je sais pas où il est parti, mais il n'est plus là. Dépourvu de notoriété. David Lisnard que j'ai dépassé en vélo sur un triathlon. Ouais, maire de Cannes. Je l'ai laissé sur place. Comme ça. C'était un Iron ? C'était pas un Iron, je sais plus ce que c'était. Bon, en même temps, il avait crevé. Il avait crevé son vélo, donc il était en train de changer sa roue. Ah, vous aviez pas la fin de l'histoire. Mais je l'ai comme ça. Ouais. Il avait crevé. Le vélo, c'est pas mon point fort. Hein. Je l'ai cloué au sol, exactement. Il y a deux candidats dépourvus de notoriété, deux autres pré-candidats ne devraient pas atteindre d'ici là les parrainages requis des 10 parlementaires et 439 adhérents. Il y avait d'autres candidats mais ils n'ont pas eu les parrainages, les signatures. Alors il y avait Olivier Badelon et Michael Millac. Mais il est où David Lisnard? Bon, écoute, il n'est plus là. Qui dit duel dit un seul tour. Le nom du nouveau président sera connu dès dimanche. Derrière ce scrutin interne, hein, un autre enjeu se profile, la désignation du candidat de la droite à la présidentielle de 2027, bien sûr, puisque Laurent Wauquiez comme Bruno Retailleau s'y préparent tous les deux. Alors, analyse de qui ? D'un cadre du parti. Bruno Retailleau apparaît à ce jour comme le favori. Parce qu'il est aux affaires, il occupe un portefeuille ministériel dont le titre impressionne les militants, un ministre de l'Intérieur. Face à cette mode Retailleau, Laurent Wauquiez doit maintenant installer le match dans l'esprit des adhérents. En décembre 2022, Wauquiez avait pourtant gagné une étape décisive en formant un ticket avec Éric Ciotti, au premier la présidentielle, au second la présidence du parti. Ciotti avait été élu président de LR en battant Retailleau par 54% contre 46%. Mais depuis la dissolution de l'Assemblée, vous savez, Ciotti a quitté la droite pour rallier l'extrême droite. Merci Open Prunus. Bientôt, les photos de Yep. Merci Niamor. Et donc, la présidence du parti est restée vacante. Hein, parce que vous savez que... Alors, on me dit que Lisnard a son propre parti, merci Nakers, Nouvelle Énergie. Il ne souhaite pas la présidence de LR, mais parle d'une primaire à droite. Okay. La présidentielle se cache-t-elle derrière la présidence du parti? Non, assure un soutien de Laurent Wauquiez. Ok. Bon, bref, ça, c'est des petites ambitions personnelles. On va pas y passer 10 heures. L'article nous dit qu'au niveau du programme politique, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. Salut, Prodoguino. Je vous lis un petit peu sur ce sujet. On va pas y passer 10 heures. Voilà. Mais comme ça, vous avez l'info, il y a une élection pour désigner le président du parti LR. Voilà, c'est plus une incarnation. Ça, voilà. Comme le dit Drakeos, c'est plus une question d'incarnation et pas de programme. Ok, on enchaîne. Ça, par contre, je pense qu'il faut. Ça m'intéresse un peu plus. On a parlé du Proche-Orient tout à l'heure. On reste dans l'actualité internationale avec un coup de fil important. Aujourd'hui, entre le président américain et le président russe, Trump et Poutine vont s'appeler. Voilà, on espère que la ligne, le call sera de bonne qualité. Arbitre au téléphone, le sort de l'Ukraine. Ce mardi 18 mars, le président américain va s'efforcer à l'occasion d'un échange téléphonique d'obtenir de la Russie un cessez-le-feu en Ukraine. Vous savez que Ukrainiens et Américains se sont mis d'accord sur le principe d'un cessez-le-feu. On attend la réponse de Poutine, qui n'a pas l'air super chaud, pour faire taire les armes. De ce côté, Kiev a déjà accepté le principe d'une trêve. Nous avons de bonnes chances d'avoir un accord, a assuré Trump, précisant que la discussion avec son homologue porterait sur le partage de territoire des centrales électriques de différents actifs. Le Conseil américain de la sécurité nationale a pour sa part évoqué un accord du type garantie de sécurité contre le territoire. Sans, là encore, préciser quelles assurances pourraient être fournies à Kiev, ni quel territoire devrait être cédé. C'est un peu flou pour l'instant. Les États-Unis refusent une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est ce que demande Poutine depuis toujours, notamment. Pour mettre fin rapidement au conflit, pour que Trump puisse dire « voilà, j'ai mis fin à la guerre », les États-Unis souhaitent offrir à Vladimir Poutine une porte de sortie lui permettant de se proclamer vainqueur. Dans cette configuration, l'Ukraine se trouverait affaiblie et amputée d'une partie de son territoire, et les Européens alors sous la menace d'une Russie renforcée. Réaction de Poutine, nous sommes d'accord avec les propositions misant à mettre fin aux hostilités, on en a parlé il y a quelques jours déjà, mais nous partons du principe que cette trêve doit conduire à une paix durable et à s'attaquer aux causes profondes de la crise. Je traduis en langage non diplomatique. Un cessez-le-feu, oui, une paix, oui, mais à nos conditions, les conditions de la Russie. Voilà. Depuis le début du conflit, la Russie n'a jamais clairement formulé ses conditions comprenaient de paix, mais elle a laissé entendre qu'elle souhaitait à tout le moins conserver les 5 régions, incluant la Crimée, qu'elle a officiellement annexées, alors même qu'elle ne les contrôle pas entièrement. Moscou souhaite aussi l'installation à Kiev d'un pouvoir qui lui serait favorable, donc on dégage notamment Zelensky. Voilà. Un nouveau président plutôt pro-russe, c'est mieux. Voilà. Que l'Ukraine soit désarmée, bah oui, tant qu'à faire. Comme ça, il n'y aura plus de risque que, en cas de nouvelle invasion, l'Ukraine puisse... se défendre à nouveau, et devienne un pays neutre. Ça, c'est ce que demande Poutine. La nouvelle administration américaine s'est jusqu'ici montrée ouverte à toutes les demandes russes, voilà, sans dire comment elle pourrait faire pression sur le Kremlin au cas où la Russie rejetterait cette trêve. L'Ukraine, de son côté, a fixé des lignes rouges, bien sûr. Kiev ne veut pas céder davantage de territoire que ce qui est déjà contrôlé aujourd'hui par la Russie, demande le retour des prisonniers et des enfants qui ont été enlevés dans les territoires occupés, ainsi que des garanties pour sa sécurité. Comment l'Union européenne tente-t-elle de peser, elle, dans ce match ? Tenue à l'écart, les Européens s'efforcent de revenir à la table des négos pour une Ukraine capable de se défendre et la meilleure protection. C'est pourquoi la chef de la diplomatie européenne propose un plan de 40 milliards d'euros pour armer l'Ukraine afin de permettre aux Ukrainiens de continuer à se défendre sans aide militaire américaine. Un plan qui ne fait pas l'unanimité. La France, notamment, estime que ça coûterait trop cher. Voilà. La France et le Royaume-Uni qui tentent également de créer une coalition de volontaires pour envoyer des troupes en Ukraine une fois un cessez-le-feu arraché. Une trentaine de pays pourraient y participer, mais aucun ne semble véritablement prêt à s'engager sans un soutien militaire des États-Unis. La résolution de ce conflit, in fine, demeure entre les mains de Trump et de Poutine. C'est pour ça que je voulais vous parler de cet article, parce que ce coup de fil aujourd'hui entre les deux présidents américains et russes, il est extrêmement important, quoi. Après, dans les infos que je vous donne, là, le fait que Trump, en gros, donne l'impression de vouloir céder à toutes les exigences russes pour arriver à la paix, mais une paix aux conditions de la Russie, ça je vous l'ai lu dans plein d'articles ces derniers jours. Merci Polo pour le 11e mois. Quelle est la différence entre ce que propose la Russie et une capitulation? Vous avez 4 heures. Bonne question de Moumoum. Merci Polo. Lazareth résume, et c'est un bon résumé. La Russie a toujours la même stratégie de négociation. Ce qui est à moi, ce qui est à toi est négociable. Je pense que c'est assez bien résumé. Je vous lis. Donc demain matin, j'espère pouvoir vous faire une revue de presse demain matin, on parlera du résultat de ce coup de fil. Ça donnerait que ça s'est beaucoup bougé, on verra. Alors, un hommage maintenant à une immense actrice qui est partie très très tôt. D'ailleurs, je vous parlerai de cinéma à la fin de cette revue de presse avec un truc un peu sympa, vous allez voir. Émilie Dequesne. Et alors clairement, Libération est le journal ce matin qui en parle le plus. Il y a des articles un peu partout, mais il n'y a pas un journal qui rend autant hommage ce matin à cette comédienne. Émilie Dequesne, c'est la une de Libération. L'art de la fougue. Très joli titre. Non pas l'art de la fugue, mais l'art de la fougue. Voilà. Moi, je ne suis pas un grand cinéphile, je ne suis pas un grand spécialiste de cinéma. Mais quand j'avais du temps plus jeune, j'aimais énormément y aller. Je fus cinéphile il y a longtemps. Avant le boulot, avant les enfants, avant le sport, avant Twitch. Et là, on a un bel hommage de Libération. Voilà. Faut savoir que Libération, c'est un peu le journal des hommages. Personne ne fait des beaux hommages aux gens qui sont morts comme Libération. Voilà. Avec des belles photos, avec des beaux textes. Voilà. Quand je mourrai, je pense que Libération ne fera rien. Mais ils font de très beaux hommages, quoi. Révélation inoubliable de Rosetta des frères Dardenne en 99. L'actrice belge au parcours éclectique est morte dimanche d'un cancer. Elle avait 43 ans. Elle a déboulé, article d'Elisabeth Franck Dumas, elle a déboulé tête baissée et poings serrés dans notre imaginaire pour ne plus en sortir, inoubliable Taurillon, comme la voulaient les frères Dardenne. De tous les plans de Rosetta, premier film d'une même pas majeure, elle était mineure encore à l'époque, en 99, dont le personnage de jeune fille en galère luttait fort au cœur d'une forêt des Ardennes contre les innombrables déconvenues que la vie s'évertuait à lui envoyer entre caravane familiale et baraque à gaufres. Je n'ai pas vu ce film d'ailleurs, Rosetta, mais je sais que qu'il a eu beaucoup de succès. Petit chaperon rouge en jupe et sweat zippé qui cachait ses chaussures propres sous une pierre de peur qu'on lui pique, Émilie Dequesne, alors inconnue au bataillon, elle débarque comme ça, a été Rosetta, la fille et le film. Ce film prénom à la double consécration cannoise, Palme d'Or et prix d'interprétation comme il se doit. C'est drôle parce que quelqu'un dans le chat me dit « Je n'ai jamais entendu parler de cette actrice ». premier rôle, Palme d'Or, prix d'interprétation à Cannes. Ouais. Moi, j'aime bien Fast and Furious, par exemple, comme film. J'aime bien. Mais il n'y a pas que Fast and Furious dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? C'est juste Palme d'Or et prix d'interprétation à Cannes. C'est juste gigantesque, quoi. Ouais. No offense pour Fast and Furious, que j'adore. Hein. Mais il ne faut pas regarder que ça, quoi. À Cannes, le film claqua comme un coup de tonnerre, mais la Palme d'Or passa mal auprès d'une partie de la profession, au point que les frères Dardenne, dans une interview avec Libé à l'époque, confièrent avoir eu le sentiment d'être des voyous invités à la table. Comme si elles avaient fait effraction dans un monde qui n'était pas le leur, il l'était, il est resté, et peut-être que cela a éclaboussé aussi Émilie Dequesne, qu'on qualifiait un peu rapidement et très souvent de non-professionnelle, comme si elle s'était contentée d'être son personnage, elle qui avait déjà des expériences de théâtre derrière elle. Après le cinéma, c'est le cinéma qu'on veut. Hein. Il y a des cinémas, il y a plein de cinémas, et vous avez tout à fait le droit d'affirmer haut et fort que vous aimez un cinéma et pas tous les cinémas. Voilà. Moi, par exemple, Émile Dequesne, je connais l'actrice parce que j'ai lu des choses sur elle, mais je ne suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de films avec elle. Quoi. Alors, Vinti me parle du Pacte des loups que j'ai vu pour le coup. Ouais. Mobius. Mais je n'ai pas vu beaucoup de films avec Émile Dequesne. Alors, revenons un peu sur sa vie. Émilie Dequesne n'était pas née dans une caravane, mais à Vaudigny, province du Hainaut. Donc, on est en Belgique, dans une famille où le grand-père avait fondé une menuiserie où ses parents travaillaient encore et qui parfois devaient construire des décors de théâtre. La mère d'Émilie Dequesne, trouvant que sa fille ne tenait pas en place, l'inscrivit dans une école où elle a pris la diction. D'ailleurs, on parlera de cinéma tout à l'heure. Je vous demanderai un petit peu ce que vous aimez en matière de cinéma. La jeune fille joua dans une troupe locale de théâtre amateur, gagna un prix d'éloquence, se mit à rêver de ciné, et c'est sa tante qui repéra la petite annonce pour le film des Dardenne. Émilie Dequesne n'en connaissait alors pas du tout l'univers, donc c'est marrant, donc c'est sa tante qui voit une petite annonce pour le film des Dardenne. Émilie Dequesne ne connaissait absolument rien du cinéma, voilà, et se pointa au rendez-vous avec ses rêves de ressembler à Cameron Diaz, ultra maquillé, c'est drôle, et en chaussures à plateforme, qui lui firent enlever Fissa, c'est drôle. Rosetta était une silhouette vague dans notre pays, mais Émilie a réussi à la faire exister et à nous y faire croire, Rosetta, plus que nous-mêmes on y croyait au départ, disaient les frères Dardenne, ce qui est assez joli. S'il n'est pas facile de trouver une ligne directrice dans la filmographie d'Émilie Dequesne, qui fit le grand écart entre le Pacte des loups, quelqu'un en parlait dans le chat tout à l'heure, de Christophe Gans et La fille du erreur d'Entrée Téchinée, entre Les hommes de feu de Pierre Jolivet et Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, il y a peut-être donc ceci que souvent elle portait les films qui ne le lui ont d'ailleurs pas toujours rendu. Elle les bouffait, les sauvait même parfois. C'est très bien écrit cet article. Souvent aussi, les cinéastes l'ont fait chanter des tubes bien connus dans les scènes poignantes dont plusieurs reviennent à l'esprit. Moi, je découvre aussi parce que je connais pas très très bien Émilie Dequesne. Dans tous ses films, et ça, tous les articles sur Émilie Dequesne en parlent ce matin, de cette énergie. Dans tous ses films, elle a manifesté une énergie démente, incandescente, la même qu'on lui a vue lorsqu'elle est venue à Cannes en mai fêter sa rémission d'un cancer, aïe, dont elle avait annoncé être atteinte en octobre 2023. En mai dernier, elle est venue fêter à Cannes la rémission de son cancer. Et fêter aussi les 25 ans de Rosetta qu'il avait vu naître au cinéma. Une même niaque pour les films et contre la maladie, tant et si bien qu'on avait pensé naïvement qu'elle saurait la dompter et qu'elle en ressortirait victorieuse. C'est avec beaucoup d'émotion, peut-être parce qu'on avait eu le sentiment de la voir grandir, voire de grandir avec elle, qu'on a appris sa mort dimanche des suites d'un cancer rare, à l'âge bien trop cruel de 43 ans. Voilà. Très bel hommage de Libération. Est-ce que... Moi, j'ai pas vu Rosetta, qui est donc le film qui la voit naître au cinéma... bon annonce. Quelqu'un a vu Rosetta ? Quelqu'un pourrait nous parler de ce film, les frères Dardenne ?
Rome a tout.
99, hein, donc ça remonte un petit peu. Quelqu'un a vu ce film ou pas ? C'est aussi ce qui touche, me dit Lazareth. Elle avait parlé de sa maladie, elle n'avait pas caché ses cheveux tombés. Elle semblait en rémission, c'est ça qui nous touche. Je l'ai vu, mais j'ai un peu oublié, me dit Lucie. Je l'ai pas vu, me dit Bertoschi. À sa sortie, oui, Kemon. Lisons la bande-annonce, donc film de 1999, Palme d'or à Cannes, prix d'interprétation, ce qui est incroyable, pour l'actrice.
At this year's Cannes Film Festival, a simple story, so
bon, faites pas attention, c'est la bande-annonce pour le marché américain.
Touching, so true, so raw, so real, won the hearts of judges and the Palme d'Or for Best Picture. This fall, October Films proudly presents Emily Duquesne, winner of the award for Best Actress, in what Janet Maslin of the New York Times has hailed as a profound and beautifully realized film. From Luc and Jean-Pierre Dardenne, the acclaimed filmmakers of La Promesse.
Je m'appelle Rosetta. J'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un ami. J'ai une vie normale.
Rosetta.
Alors, bon, évidemment, le commentaire en anglais, là, pour un autre marché que le nôtre est un peu décalé, mais en revanche, moi qui connaissais pas ce film, je trouve que la présence de l'actrice est quand même assez incroyable. Est-ce qu'on n'a pas un extrait du film 99, le film. Ouais, c'est intéressant ça. Ça a pas l'air fou? Si, ça a l'air fou. Tu sens pas la présence de l'actrice là? Et c'est ce que disait Libération, elle était d'une présence incroyable dans ses films. Lazareth nous rappelle l'histoire de Rosetta, c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son emploi, pète un plomb dans son usine, doit être évacuée par la police, se retrouve à vivre dans une caravane avec sa mère alcoolique et essaye de retrouver un job pour survivre. C'est un film difficile, mais il y a aussi une histoire d'amour dedans, quoi. Voilà. Moi, cet extrait m'intéresse parce que je connais pas bien le film, le cinéma des frères Dardenne. Et Defecator vient d'écrire dans le chat, notre ami, les frères Dardenne filment beaucoup en plan séquence, comme on le voit ici, parfois par-dessus l'épaule de leurs comédiens, c'est très immersif, pour ceux qui sont surpris par la forme. Je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà. Bon, moi je découvre, hein, parce que je n'ai pas vu ce film, et j'ai eu des explications de gens qui connaissent le cinéma dans le chat, très intéressant, pendant l'extrait, notamment Lazareth, c'est le cinéma des frères Dardenne, on est entre le faux documentaire, le film social, et la performance des acteurs, c'est souvent un cinéma de la proximité, pas de grands plans flonflon lyriques. Voilà. Et Nicolas, notre ami Nicolas qui est dans le chat aussi, nous disait ceci. Alors bon, c'est drôle parce qu'il se trouve que je vais vous parler de cinéma tout à l'heure pour finir ce live. Mais d'abord, on va parler des AirPods qui traduisent. Bon, moi, ça me hype complètement, ça. Enfin, AirPods, peu importe, mais écouteurs, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Moi. Merci Choucroute Chou. Merci Choucroute Chou. Bientôt, des AirPods qui traduisent en temps réel. Voilà. D'autres écouteurs le font déjà. Voilà. Mais ça va arriver chez AirPods a priori. Voilà. C'est peut-être en train de se démocratiser, quoi. Bon, moi, ça me hype un petit peu, quoi. Espèce de vieux rêve, là, de... voilà, tu te promènes dans un pays étranger, tu parles pas la langue, et en fait, tu comprends tout. Ce qui est assez fou, quoi. Bientôt, les AirPods qui traduisent en temps réel. Point d'interrogation. Prudence. Merci, Baudot. Pour le Prime, Apple s'activerait conditionnel pour inclure cette fonctionnalité dans la prochaine mise à jour iOS 19 de ses iPhones. Les Pixel Buds de Google et d'autres fabricants d'écouteurs sans fil ont déjà franchi le pas. La conversation avec votre interlocuteur débute en coréen et finit magiquement en français dans vos oreilles. C'est assez fou. Et vice versa si les deux personnes possèdent des AirPods. C'est assez fascinant, non ? Selon les informations de Bloomberg, la traduction en temps réel pourrait venir enrichir les fonctionnalités des célèbres écouteurs sans fil d'Apple. Ces oreillettes deviendraient capables de convertir une langue en direct, à condition évidemment que l'iPhone récent voilà, mette en action l'iOS 19, la prochaine mise à jour du logiciel attendue pour l'automne. Bon, ce que je comprends a priori, c'est que ce ne sont pas des nouveaux écouteurs, voilà, mais une mise à jour de l'iPhone, à condition que ce soit un iPhone récent. Pas fou. Pas folle la gaffe, je veux dire. Concrètement, les micro-airphones des AirPods détecteront la langue parlée et un logiciel interne de traduction dopé à l'IA se chargerait de jouer les traducteurs automatiques. mais pas pour tout le monde et pas immédiatement. Voilà. Cette fonctionnalité devrait logiquement être réservée aux dernières générations d'Apple. C'était par exemple déjà le cas pour le test d'audition et la future aide auditive, deux fonctionnalités qui étaient réservées aux AirPods Pro 2 qui sont vendus à 279 €. Voilà. Donc déjà, c'est pour les dernières générations d'AirPods et a priori pour les derniers iPhones aussi, quoi. Voilà. Papa Mixer, on a fait la démonstration sur une de ces vidéos, me dit Tom Thompson. Dans tous les cas, la puissance de calcul nécessaire viendrait sans aucun doute possible des iPhones et dépendrait donc de la version du logiciel installé. Taillée pour les futurs iPhone 17 de la rentrée, la compatibilité du système d'exploitation iOS 19 devrait s'arrêter, elle, au iPhone 11, sorti en 2019. J'ai quoi, moi ? J'ai quoi comme iPhone, moi ? J'ai un 12 ? Putain, la commu, c'est mieux que moi. J'ai un 12, moi ? Comme ça, j'ai le 3GS. Ça va pas, non ? Putain, c'est d'une méchanceté avec moi. C'est fou, ça. Aucun respect. Information. iPhone 12. J'ai un 12. La commu, c'est mieux que moi, mon iPhone, quoi. J'ai dû le dire à clapet. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez, quoi. Donc, j'ai un 12. Donc, ça passe, ça passe. Ça passe. Moi, jamais le dernier iPhone, moi. La rumeur des plus crédibles circule dans un moment charnière pour le géant californien, on parle d'Apple. Le déploiement de certaines fonctionnalités d'Apple Underreaction, boycott USA. Moi, je veux bien. Mais tu sais que Twitch, c'est une plateforme américaine qui est détenue par Amazon. On fait quoi là ? Tu t'en vas, je m'en vais, on s'en va. Je veux bien, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Hein ? Donc, la rumeur des plus crédibles circule dans un moment charnière pour le géant californien. Le déploiement de certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence, l'IA maison, dont on dit qu'elle n'est pas folle, patine, notamment pour la mise à jour de l'assistant Siri, qui enchaînent les bugs. Des déboires qui entraînent de sérieux retards et pourraient coûter leur place à certains dirigeants. C'est tendu. Avec l'iOS 19, la marque à la pomme se préparait à une refonte majeure dans le design du logiciel, avec un changement dans la forme des icônes et des applications, mais aussi dans la navigation et l'utilisation de l'appareil. Apple accumule du retard sur ses concurrents, notamment Google, qui avec ses Pixel Buds promet cette traduction instantanée depuis au moins 5 ans. Et s'approche à chaque mise à jour d'Android d'un niveau de qualité convenable. Quelqu'un a les Pixel Buds, là, de Google ? Il paraît que ça marche bien. Après, c'est américain. Gratix, tu l'as ? C'est quoi ton retour ? Oui, moi. Oui, j'ai les pros, ça fonctionne bien. Ok. Franchement, ils sont trop top, les Pixel Buds Pro 2. Ok. Samsung, quelqu'un me parlait de Samsung tout à l'heure, avec ses Galaxy S24 et S25, propose la traduction hors ligne dans plusieurs langues avec une efficacité convaincante. Le fabricant chinois Honor en a même fait un argument de vente pour son dernier Magic 7 Pro. L'article titre sur Apple, mais en fait parle de toutes les marques, ce qui est plutôt intéressant. De nombreuses startups présentes au dernier salon CES de Las Vegas ont également dévoilé des appareils s'appuyant sur l'IA générative, avec des tarifs bien plus bas que les écouteurs sans fil premium sur le marché. Ils sont pixels les buds ? J'ai la ref. Ils sont légers, petits, bonne ergonomie. Gemini marche bien avec. C'est mieux que les Bose. Allez, ça balance. Mais l'autre en face qui n'a pas d'écouteur, tu le comprends, mais il ne comprend pas. Ah ben en fait, il faut que les deux l'aient, quoi, idéalement. Ouais. Les obstacles à la fluidité linguistique ne manquent pas, commencer par la latence dans la traduction qui gêne la bonne compréhension et se joue à quelques millisecondes. Les outils de traduction actuels pêchent encore par l'interprétation du contexte et des biais culturels, à moins que les ingénieurs d'Apple aient résolu cette équation ou que la firme de Cupertino ait mis la main sur une jeune pousse à la technologie révolutionnaire, comme elle avait pu le faire pour ses technologies de rupture telles que Face ID, la reconnaissance faciale. Les premières réponses tomberont mi-juin, on en saura un peu plus, lors de la prochaine conférence annuelle des développeurs où les contours et fonctionnalités d'iOS 19 seront dévoilées. En vrai, ça a l'air cool tout ça. Hein ? Des écouteurs qui traduisent quand t'es à l'étranger ou quand t'es avec quelqu'un qui parle pas ta langue. C'est pas mal, non ? Je sais pas, moi je suis assez hypé. Vous en pensez quoi ? C'est pas mal en vrai. Face ID. Non, ok, face. Oh, putain. Putain, mais ça rigue. Toujours la moquerie, hein. Oui. Remarque, face ID, ça pourrait être un truc. Poupouton est sceptique, hein. Promesse qu'on n'est pas prêt de voir fonctionner. Ça va nous rendre encore plus fainéants. Bah, face ID, ça pourrait être drôle. Imaginez. On a tous un visage différent les uns les autres. Peut-être que c'est vrai aussi pour d'autres parties de notre corps. Tiens, d'ailleurs, qui se souvient du casque Apple sorti il y a quelques mois, déjà disparu ? J'ai lu un article là-dessus, et oui, il n'y a pas longtemps, le succès commercial n'est pas au rendez-vous, je crois. Je ne suis pas fan de l'idée, en vrai, ne pas pouvoir communiquer nativement, force à être attentif à l'autre, je ne sais pas, il faut voir en vrai, dit Mario de Pametal. On peut imaginer que ça va ouvrir les communications, mais c'est tellement beau aussi les hésitations qu'on cherche à communiquer avec l'autre, à aller chercher des mots, etc., me dit Tokyo Tommy. Alors, ça ouvre un abîme de réflexion et sur le rapport à la langue, sur les échanges avec l'international. C'est pas mal, hein. Ouais. Bon, les amis, je vous ai dit qu'on avait parlé de cinéma aussi. Aujourd'hui et c'est le cas parce que ah oui et là c'est le, pour le coup je l'ai fait à la fin de la revue de presse. Non on va pas me voir dans un film parce que c'est une OP, c'est une collaboration commerciale avec un événement que vous connaissez sûrement, je pense, qui est le printemps du cinéma qui arrive. Bon, moi qui voulais me rattraper un petit peu sur le cinéma et je crois que je vous ai préparé un bot. Hop. Tac. Voilà. Si vous tapez point d'exclamation printemps, je suis le roi du bot. Si vous tapez point d'exclamation printemps dans le chat, j'ai bossé, normalement c'est prêt. Voilà. Exactement. C'est fait. Vous êtes incroyable. Incroyable. Le printemps du cinéma. On parlait de cinéma. Alors nous, ça va nous permettre de parler de cinéma un petit peu parce que j'ai vu tout à l'heure qu'on a constaté à propos des frères Dardenne et de Rosetta qu'il y avait des cinémas et qu'on n'était pas obligé d'aimer tous les cinémas. Ceux qui tapent point d'exclamation hiver dans le chat, j'aime. Ça manque d'ailleurs de point d'exclamation été, point d'exclamation automne, point d'exclamation hiver. Quoi. Je suis habitué à plus de vannes. Quoi. Donc point d'exclamation printemps. Tout le monde connaît le printemps du cinéma ou pas ? Donc c'est du 23 au 25 mars, donc c'est littéralement en quelques jours. Attendez, c'est quand le 23 ? C'est du 23 au 25 mars inclus. Vous avez toutes les infos sur le lien, mais moi je suis un peu maniaque. Le 23. Ah, ça commence dimanche. C'est dimanche. Ok. Bah, ça tombe bien parce que dimanche, il n'y a pas Simplay. C'est parfait. Alors maintenant, je peux vous le dire. Le printemps du cinéma a organisé les dates cette année parce qu'il savait que j'avais pas mis de Simplay dimanche. Parce que le Simplay, exceptionnellement, sera lundi. Lundi soir, voilà, avec Natou. Natou, le week-end, c'est sacré. Elle a bien raison, d'ailleurs. Elle m'a dit, Sam, je veux bien faire Simplay, mais pas le dimanche, c'est pas possible, je lui dis pas de problème. Simplay, c'est lundi. Comme par hasard, le printemps du cinéma, eh bien, ça commence dimanche. Comme par hasard. C'est assez fou, quoi. Voilà. Donc, du 23 au 25 mars inclus, aura lieu le printemps du cinéma. 3 jours, vous pouvez aller voir tous les films que vous voulez. Dans tous les cinémas que vous voulez, dans toutes les salles que vous voulez, voilà, pour 5 euros par séance. Voilà. Ce qui est un tarif un peu cool. Combien ça coûte tarif normal de place de cinéma aujourd'hui, vu qu'avec la vie de famille et le taf, j'y vais plus trop. 10, 10, 11,50, 12,50, Châtelet UGC, 14, 16, hein ? 20 sur Paris ? Quoi? À Paris 17e, plat tarif 15 euros maintenant? 7 euros pour les jeunes? 15, j'ai beaucoup, 15, 16, 14. Étudiants, ça peut descendre à 7. Nouveau pâté opéra à Paris, 25 euros. C'est pas un truc un peu chic, un peu luxe, le pâté opéra à Paris, là? 20 balles en Suisse. 12 chez Pâté, 8 dans les petits cinémas de campagne. 16 Pâté Lyon. 17 à Rouen. 17 à Rouen. 12, 14 euros Quimper. 16 Bruxelles. On est beaucoup sur du... Je vois beaucoup de 16, du 14. Ok. 8,50€ à Ajaccio. Il y a un ciné. J'adore la Corse. Donc je peux me permettre de blaguer. 5 euros à Budapest. Ça y est, ça, so- hey, ça flex un peu. Hein. Ok. Donc je vois beaucoup du 14 quand même. Hein. Ok. Donc là, c'est 5 euros pendant 3 jours. 23 ou 25 mars. Le film que vous voulez, la séance que vous voulez, est dans tous les cinémas de France. C'est le printemps du cinéma. L'idée, c'est d'inciter les gens à aller au cinéma alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait. Voilà. Et d'aller voir un film qu'ils n'auraient peut-être pas eu envie de découvrir à ce tarif, quoi. Voilà. Donc ça, bon, est-ce que je pourrais pas y aller, moi? Parce que moi, j'avais jusqu'ici des enfants qui voulaient pas aller au cinéma. Mon grand Malo, je sais pas, il avait un peu peur au cinéma. Je sais pas pourquoi. On a essayé d'emmener voir des dessins animés longs. Et en fait, quand c'est trop long, je sais pas, il est pas à l'aise. Et puis ça commence, ça y est. On a commencé à regarder pendant que j'étais en taf, là, Hélène, le week-end, des films avec les enfants, tout ce qui est, comment il s'appelle? Avec les petits, avec les mignons là. Moi, Moche et Méchant, tout ça. Voilà. 8 ans, non mais il est grand. Mais en fait, il n'est pas du tout à l'aise avec la notion de long métrage, quoi. Et on a commencé à regarder des Moi, Moche et Méchant là. Et ça y est. Non, pas Alien. Non, Alien, non. Et ça y est. Et maintenant, c'est bon. Donc on va pouvoir commencer. D'ailleurs, il faut peut-être que je trouve un film à aller voir, quoi. Qu'est-ce que je peux voir pour les enfants en ce moment d'ailleurs? Le bruit est souvent très fort, donc au début c'est compliqué. Bah, y avait ça, ouais. Il y avait ça, ouais. Je pense. Flo? Massacre à la tronçonneuse? Saut? 6? Flo? C'est quoi, Flo? J'arrive à reconnaître le troll des bons conseils. Flo? Oh, ok. C'est bien ça? Ça a l'air sympa? J'ai Paddington aussi. Flo le chat. Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Long métrage d'animation. Franco-Belgo-Letton. On dit Belgo ou Belgio? Belgo, hein, je crois. Sorti. Donc, première projection. Festival de Cannes 2024. Ok. C'est quoi cette dinguerie? C'est magnifique. Ok. C'est quoi cette folie? Il y a quelqu'un me dit, les images ont été générées quasiment en temps réel avec un seul PC grâce à un moteur de rendu de Blender. C'est quoi ça? C'est incroyable. Oscar du meilleur film d'animation 2025. Oscar, ok. Il passe plus, t'es sûr? Attends, comment il s'appelle le film? Flo. Flo en salle. Moi je l'ai, moi. Pâté, les 7 Batignolles, l'Alcazar, Agnès sur scène, UGC, Sinistre et la Défense. Bon, je regarde dans la région parisienne. Hein. Il y a encore. Peut-être pas partout, mais il y a encore. Voilà. D'ailleurs, je crois que sur le lien que j'ai épinglé là-haut, et si vous avez pour l'exclamation printemps dans le chat, vous l'avez. Voilà. Je crois que vous avez tous les films qui sont dispo.
L'actrice Césarisée est dévastée par l'enlèvement de son compagnon.
C'est quoi ça? Petit trailer, petite bande-annonce de l'opération. Julien Santini, mais j'adore ce gars. Mais Julien Santini, mais ce gars est incroyable. J'ai découvert, moi, sur c'est des vidéos sur TikTok. Il est incroyable.
C'est trop la honte.
On s'en fait un petit extrait, quoi. Très drôle, Julien, très surprenant. Ah oui, oui. Ah non, mais moi j'adore. Je l'ai là. Je l'ai. Alors juste quelques secondes. Ouais, je tombe sur des vidéos, il est fou. Allié. J'adore ces humoristes qui prennent la partie du public, là. Il faut que j'en trouve un bon, parce que là, je vais chercher les pires, là.
Depuis le début du spectacle, ça sort et ça rentre dans la salle. Voilà comment j'ai réagi avec l'art et la manière.
Il y a beaucoup d'allées et venues, frérot, dans cette salle. Le prochain, je sors, j'en... Je vais chercher la personne, et je lui dis pendant qu'elle pisse, « Alors, tu le savais bien, champignon ? Pisse-lui bien ! Tu en l'air, on me dira ! Salope !» De Paris. Allez, stop, on arrête la salle. On allume. Le couple aux toilettes va bien se faire en... Ils ne reviendront plus. Ton eau, tu te la mets au cul. Voilà l'arme.
J'adore
du
ça,
film,
moi.
Les amis. Je vais péter un câble. Hein, ça filme, hein, ça va faire l'impro de la semaine. Hein. Et ça va faire le buzz et le succès que je mérite, gros. Ta graisse. Ce verre d'eau, je vais vous le balancer à la gueule. Parce que depuis... Ou alors vous riez plus. Ouais, je pète un câble. Ce verre d'eau, je balance... gros, sur les petits mineurs qui avaient rien à faire ici. Gadjo, gitan.
J'adore ce gars.
Je craque, j'en veux plus, je craque.
Depuis le début du spectacle.
J'adore ce gars. Pardon pour la parenthèse, j'ai l'esprit d'escalier et j'aime trop. Revenons à nos moutons. Voilà. Je crois que sur le lien que vous avez, que je vous ai mis en haut, vous avez tous les films à l'affiche, puisqu'on se demandait si le film sur le chat, là, il était dispo. Bah, vous les avez tous. Voilà. Alors, dites-moi s'il y a un coup de cœur là, qu'il faut que j'aille voir. Là. Je vais essayer d'y aller ce week-end. Ça, c'est beau, ça. Argote, c'est quoi ? C'est un documentaire. Merci Pascal pour les 5 abonnements offerts à la commune, tu régales. Merci Fizorem. Vous me dites, dès que vous en voyez un, vous me dites. Je le note. Mickey 17, c'est quoi Mickey 17 ? Mickey... De Brutaliste, on m'en a parlé. Mickey 17, mais sans les enfants. Mais vous me parlez tous de ce film. Attendez, ok. Mickey 17 ? Ok. Pourquoi tout le monde me parle de ce film ? Mais pourquoi tout le monde me parle de ce film ? Merci Pascal. Pourquoi tout le monde me parle de ce film ? Je mets une bande. Je mets en français la BO, ok ? Le dernier, Bong Joon-ho. Oh. Ok. Mais pas avec les enfants alors, hein. Bien barré, comme j'aime. Ok, d'accord. Bon, sans les enfants, mais ok. Très bonne question de... Attends, je remonte dans le chat. Il y a une question très très pertinente. Voilà, Tégolek me dit « Meilleur film de l'année, critique sociale sous forme science-fiction, on adore. » Attendez. C'est une question que je me suis posée aussi. Je la cherche dans le chat. Attends. Où est-ce qu'elle est ? Ah oui, c'est Arthur Rizio qui demandait « Est-ce qu'on peut voir Mickey 17 ?» Sans avoir vu les 16 premiers. Parce que j'ai vu aucun. C'est possible ou pas ? Est-ce qu'on peut prendre l'histoire en cours de route ? C'est ça la question. Hein ? Non ? C'est pas une bonne question ? Non, ok. Alors, donc je dis manifestement non. Il faut avoir vu tous les films Disney pour bien comprendre cette aventure de Mickey. Ok, d'accord. Ok. Le 12 est nul. Le 12... Ok, d'accord. Très bien. Les 16 premiers, c'est pour poser les bases. Ok, d'accord. Est-ce qu'on... Autre question de RJD. Est-ce qu'on peut regarder Saw ? Saw, le film qui fait un peu peur, là. Saw 6, si on est vegan. Est-ce que... Moi, je ne peux pas regarder ces films qui font peur. Hein. Est-ce qu'on peut regarder Saw ? Saucisse si on est vegan. Et derrière ce Mickey, il y a une certaine forme de critique de l'Amérique de Donald Trump, me dit Defecator. Ok, d'accord. Impossible, il faut voir directement Saucette. Ok. Ça va, Sarah ? On est fatiguant. Hein. Est-ce qu'on peut voir Saucette si on est amputé des pieds ? Demande Kergal. Est-ce qu'on peut aller voir Saucette si on porte des claquettes ? J'aime. Je l'avais pas celle-là. Ça, je la mets en question pour un champion. Parce que Saw 6, j'en ai déjà parlé, la question pour un champion. Et Saw 7, est-ce qu'on peut aller voir Saw 7 si on a des claquettes ? Ça, je l'avais pas. Ça va venir dans la question pour un champion. Pour l'exclamation étoile, Rayou, samedi soir, 18h10, France 3, question pour un champion. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de sympa ? Dounia, le grand pays blanc, ça va bien, non ? Délocalisé, comédie. je suis tellement nostalgique. Alors moi, je suis pas trop nostalgique. J'ai assez peu de regrets sur mes vies d'avant. Mais je regrette des moments de ma vie où j'ai du temps pour aller au cinéma. Quand j'étais ado, j'étais un peu solitaire. J'étais un peu solitaire. Je faisais du vélo. Je faisais beaucoup de vélo tout seul. Je sais pas, je dirais vers 10-12 ans. Et j'avais un bicross rouge et jaune. Et j'étais souvent dehors, voilà. Le week-end à traîner. Et j'allais au cinéma. Et je prenais mon vélo. Et j'allais au cinéma. Et je m'enchaînais parfois 2 ou 3 films le week-end. Voilà, tout seul. J'aimais bien ça. Et je suis nostalgique de cette époque. Parce que j'ai eu de grandes émotions au cinéma. Et par manque de temps, je les ai plus, quoi. Parce que c'est pas pareil quand même à la maison. Ouais. Je garais mon vélo et je faisais ça. Et à une époque, j'étais vraiment un fou de cinéma, quoi. Quand les cartes d'abonnement illimitées sont sorties, j'étais fou. Comme on l'a tous été, quoi. Tu achetais 3 tickets ou bien un seul et tu fraudais les 2 autres films? Tes parents s'inquiétaient pas? Mes parents travaillaient beaucoup. Ils étaient commerçants, ils travaillaient H24 et du coup, le week-end, j'étais pas là. Donc, je vivais ma vie, quoi. Ce qui était bien, en vrai. Voilà, j'étais à Rennes, j'avais mon vélo et je traînais. The Insider. The Last Showgirl. Ah oui, c'est avec Pamela Anderson, ça. Black Dog. Un certain regard. Attends. Ça, j'ai vu un article là-dessus. C'est une histoire de... Je sais pas, de Yakuza, de chien. Attends. Ça me plaît, ça. The Insider, meilleur film du début de l'année. Ok, alors attends, on regarde Black Dog. Parce que ça, c'est encore une bonne annonce what the fuck pour moi, ça. Et après, on ira voir Insider. Black Dog. Black Dog Trailer. Bon, ça, c'est des films pour moi, pardon. Je suis pas sûr que vous allez aimer. Je vous mets ça. Ghost Dog, j'ai vu bien sûr Ghost Dog. Bien sûr. Jim Jarmusch, si je dis pas de bêtises. Forest Whitaker, incroyable. On regarde la bande-annonce de Black Dog, je crois. Ça, c'est un film pour moi, ça. Voilà. Ça, c'est le genre de cinéma que j'aime bien. Ah oui, donc c'est pas un Yakuza, c'est en Chine. C'est en Chine. Non, c'est un ancien malfaiteur, je crois. Black Dog. Je vais raconter l'histoire, parce que je raconte n'importe quoi. Je lis rapidement un article que j'ai vu il y a 2 jours. L'angle, la trentaine, c'est le jeune homme qu'on a vu avec les cheveux courts, là. Sort de prison suite... Voilà, c'est un ancien bandit, c'est pas un ancien Yakuza. Suite à son implication dans la mort d'un homme, il retourne dans son village natal, près du désert de Gobi. Donc on est en Chine, on n'est pas du tout au Japon. Alors que les Jeux de Pékin 2008 approchent, il est embauché pour capturer les très nombreux chiens errants qui occupent des quartiers abandonnés destinés à être détruits. Hein. Il recueille alors un chien noir, accusé de porter la rage, en fait il n'a pas la rage, qui effraie les habitants. Lang et le chien s'attachent silencieusement l'un à l'autre. Voilà, moi c'est le genre de film que j'aime. Quelqu'un me disait... À propos des films, on était en train de regarder The Insider, meilleur film de l'année. Bon, let's go. Vous validez ? VF, allez, ouais, dans bande annonce officielle. FR. Ouais, très bien. Anglais sous-titré. Alors, est-ce que c'est le meilleur film du début de l'année? Let's go. Film d'espionnage assez classique, mais efficace, bien aimé, Manuel Extratovic. Alors, le film est peut-être top. J'ai pas été hypé par la bande-annonce, par contre. Je sais pas. Voilà. Je lisais aussi une bagarre dans le chat, là. Voilà. De Yakuza qui était en train de se prendre le col dans le chat, là. Donc, j'étais un peu distrait. Mais j'ai pas été trop hypé par le... Bah, dites-moi le film qu'il faut que j'aille voir en ce moment. Mickey, on en a parlé, du coup, ouais. Remake de Mr. and Mrs. Smith, j'avais bien aimé moi ça. Mickey 17, ah vous êtes vraiment sur Mickey 17. Mickey 17, on a vu la bande annonce tout à l'heure. Les visiteurs, attends, il y a vraiment. Non, il y a les visiteurs en ce moment? Non. Dans la cuisine des Nguyen, ouais, c'est les trucs, moi je vois ça, j'ai envie d'aller voir ça. Comédie musicale dans la cuisine des Nguyen, moi je vais voir ça moi. Je crois que j'ai une fascination pour l'Asie en vrai. Je vous lis. Hein. The Matinée Étienne, c'est quoi comme film ça? C'est un navet ça. Les filles du Nil. Je vais vous dire moi, qu'est-ce qui me fait envie? À bicyclette. Ah oui, à bicyclette. Ça a l'air bien, ça. As-tu déjà tourné dans un film ou une série, Samuel? Je ne crois pas. Ah, Belasquez, il y a un film, il y a un documentaire sur Belasquez. Mercato, avec Debbouze, Jamel Debbouze. Requiem for a Dream. Dans la cuisine des Nguyen, t'as un film français? Mais ça a l'air trop bien. De Stéphane Lee Kyung. On va aller, hey, on va aller voir ça. On va aller voir le trailer. Le film avec Debbouze est pas ouf, me dit Mikaillet. Princesse Mononoké qui ressort au ciné? Ça, c'est une bonne nouvelle. Attends, donc, dans la cuisine des Nguyen, let's go. Ça me plaît, ça. Donc, du coup, c'est en français? Ok. Ça, ça me plaît, ça. D'accord. Alors, vous me parliez beaucoup de brutalistes. C'est pas le film où il y a... Non, je dis... C'est pas le film où il y a... Où il y a une pause au milieu, où il y a une... Comment on appelle ça? Un entracte? Je dis une bêtise? À bicyclette, ça a l'air bien, me dit Johnny Billy Boy. C'est ça? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Il y a encore... Il y a un entracte dans ce film, ouais. Film multi-oscarisé, très long. Donc du coup, il y a une pause d'un quart d'heure, mais qui a été voulue par le réalisateur, en fait. Le film est pensé avec une pause. Les avis sont assez partagés, hein, sur The Brutalist, je vois dans le chat. Avant de passer aux commentaires, j'ai vu des commentaires très intéressants dans le chat. Merci à Bruno, Bruno Univers Simu, pour son raid. Bruno, c'est quelqu'un avec qui je ferai un sample un jour, notamment sur... comment s'appelle le jeu, là, où on est agriculteur, là? Vous savez? Farming Simulator, exactement. Bruno, faut qu'on se fasse ça un jour. Hein. On va se caler ça. Hein. D'accord? Et puis, donc déjà, merci pour le raid. Donc je crois que Bruno, il maîtrise très bien ça, la simulation. Enfin, on dit ça comme ça je peux dire Bruno maîtrise la simulation, enfin, parce qu'il fait beaucoup de jeux de simulation. C'est ok? C'est ok? Bruno, est-ce qu'on peut dire que tu simules? Très bien. On peut dire ça. C'est ce qu'on dit en société. Voilà. Donc Bruno, un jour, tu viendras simuler à la maison. Petite phrase très bizarre. Sur Farming Simulator. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est des commentaires que j'ai vus dans le chat intéressants, et notamment des trucs, et je suis complètement d'accord. Qui disait ça, attends. Alors déjà, sur le film qu'on vient de voir, les plans grandiloquents sont souvent récompensés aux Oscars, me dit Bertoschi. Zucchini est un petit peu dans le même esprit. C'est un film qui coche les cases des Oscars par son thème, la façon dont il est filmé, son rythme, mais ça fait pas forcément un bon film pour moi. Et j'aime beaucoup le commentaire de Zark5, ou Zarch5, je sais pas comment on prononce. Est-ce qu'on peut expliquer que ne pas aimer ne définit pas la nullité? Bien sûr, bien sûr. Hein. On est dans l'univers du subjectif absolu. Moi, j'aime depuis toujours les petits films d'auteur, un petit peu dans des langues étrangères que je maîtrise pas du tout, qui me font découvrir des parts de vie un peu étonnantes. Et j'aime aussi le cinéma populaire. J'ai vu tous les Fast and Furious, je regarde les Tuches. Voilà, j'aime tout. J'aime tout, moi j'aime tous les cinémas. Sauf le cinéma qui fait peur. D'ailleurs avec Natou, on va jouer à un jeu qui fait peur lundi soir. Je vais encore avoir la tête qui me rentre dans le cou. Dans le cou, hein. Ça va être un enfer. Donc à part les films qui font peur, je regarde tout, moi. Tu rates l'essentiel en ratant l'horreur. Je peux pas. Je prends tout au premier degré. On notera qu'il a pas dit j'aime les Tuches, mais je regarde les Tuches. Non, j'aime les Tuches, j'aime. C'est du cinéma populaire qui est vachement bien fait. Mais on peut aimer plein de cinémas différents, quoi. On est d'accord avec ça? Hein? Oui ou non? Tu n'aimes pas faire des bons, je comprends. Hein? Des bons quoi? Bruno? Tiens, je vais vous dire ce qui pourrait me faire plaisir dans les films qui est actuellement à l'affiche, là. Donc n'oubliez pas, Printemps du cinéma, point d'exclamation, printemps, boum, pendant 3 jours, à partir de dimanche, tous les films dans tous les cinémas, dans toutes les salles en France, c'est 5€ par séance. C'est ok, en vrai? Ah, les bons, les James Bond, tu voulais dire? Ah, les bons en regardant les films d'horreur? Ah! Non, je déteste ça. Non, je prends tout premier degré, moi. Je pense que je peux mourir IRL d'une crise cardiaque devant un film d'horreur, quoi. Donc, Printemps du cinéma, point d'exclamation, Printemps du cinéma, tu cliques sur le lien, t'as toutes les infos. En vrai, si vous aimez le cinéma, à partir de dimanche, c'est un peu la fête. Qu'est-ce que je vais aller voir, moi, par exemple? Dimanche, je vais au cinéma. Dimanche, je sais pas, ça me plaît. J'attends les Baudins, ça fait du bien de rire. J'aime la nuitée, dit Rhodes. Les Baudins, je sais pas, les Baudins, j'ai un doute. Vous voulez vraiment? Les Baudins partent en vrille, là. J'aime bien les Baudins, mais là, j'ai peur. Là. Vous êtes sûr? T'es sûr? T'es vraiment sûr? L'extratovic dit, allez voir les Baudins, le premier qui rigole paye le resto à l'autre. J'adore ça! Tu vas voir les Baudins à deux, le premier qui rigole paye le resto à l'autre. J'adore! Moi, j'aime le concept qui a été proposé par quelqu'un dans le chat. Vous y allez à deux, et le premier qui rit paye le resto à l'autre. Voilà. Quelqu'un disait dans le chat, si personne ne rit, eh ben vous mangez pas. Je connais pas. A priori, j'irai pas voir les Baudins. Ouais, je suis très grand public. Lâchez pas. Ça, ça a l'air beau, ça. Argot. Magma. Zadi, là. Jean-Pascal Zadi, il est drôle, lui. Il y a Chronos qui ressort au cinéma, mais allez le découvrir. Pourquoi ? T'as Chronos, là ? T'as vu Chronos, là ? Ah, Bicyclette, on va aller voir la Bicyclette, ouais. Un documentaire. Ici, là. Il y a Chronos ? Bon. Ok, alors on regarde la Bicyclette. J'ai un peu de temps. Moi, je suis cool. Ce midi, j'ai une réunion à 14h. Je suis cool. Je regarde juste si j'ai une urgence ou pas. Non, il n'y a pas d'urgence. Aurais-tu... Ouais ? Ok. Des nouvelles de questions pour un champion. Chronos ? Guillermo del Toro ? Ok. Black Dog ? On a vu la bande-annonce. J'avoue, j'aime. Alors, attends. Chronos. Trailer ? C'est un film... Chronos ? Attends, Chronos, comment s'écrit ? Chronos ? Trailer ? Guillermo del Toro. Ok, je l'ai. C'est un film de 93. C'est pas Chronos de New Down, hein ? Ah, il est ressorti, effectivement. Ok, je l'ai là. Je vous le mets. Guillermo del Toro. J'aime regarder une bande-annonce et je ne comprends absolument pas de quoi ça parle. Et donc, du coup, je vais aller voir Chronos. L'histoire. Parce que là, du coup... Chronos, donc c'est de Guillermo. Parce que là, j'ai pas compris. C'est une réflexion sur la vie éternelle ou un truc comme ça, là ? Film mexicain, hop, let's go. Donc, réalisé par Guillermo del Toro, sorti en 93, qui ressort, donc, c'est son premier long-métrage. Le film suit Jesus Gris, antiquaire, grand-père d'une fillette orpheline, qui découvre par hasard un curieux scarabée, on l'a vu, en or dans le socle d'une statue d'archange en bois qu'il est en train de nettoyer dans sa boutique. Déjà, j'aime bien l'histoire. L'objet intrigue d'autant plus le professionnel qu'il présente une petite molette. Curieux de comprendre la fonction de ce qui ne semble être qu'un gros bijou en forme de galette tenant parfaitement dans la paume de la main, le vieil homme tourne avec précaution la molette qui n'ouvre pas le scarabée, mais se révèle être un remontoir activant un mouvement d'horlogerie. Le scarabée ne s'ouvre pas, ce n'est pas une boîte précieuse et décorative, c'est une sorte de boîte de Pandore au mécanisme très sophistiqué. Un mécanisme qui est capable de donner la vie éternelle. J'en étais sûr. J'aurais été sûr que c'était une histoire comme ça. Ouais. Son premier film. Pouton me dit, ah bon, purée, ça a bien vieilli visuellement. J'ai cru que c'était récent. Ben, le film est 93. Je suis d'accord avec toi, ça pourrait sortir là, quoi. À moins qu'il ait été genre restauré. Ok. C'est l'histoire d'un artefact qui donne la vie éternelle, mais ça n'est pas gratuit. Comme toujours avec les artefacts qui donnent la vie éternelle, ça c'est sûr. Et on m'a dit, remasterisé. Et on m'a dit que à bicyclette était allé nous remonter le moral. Bicyclette, bande annonce 2024. Ça, je pense que ça va nous faire du bien, ça. Ça va nous faire du bien, ça. C'est plaisir. Attendez. Hein ? On est sur quelque chose là, non ? Attends. À bicyclette. Film. À bicyclette. Non, pas les touches rémanentes. C'est un documentaire. Alors, comédie dramatique française. Mathias met Mlekuz pour la réalisation. En hommage à son fils qui s'est donné la mort quelques années après un voyage à vélo de La Rochelle à Istanbul. Son père reprend son trajet de voyage à bicyclette en compagnie de son chien. Et un ami de longue date à partir de l'Atlantique jusqu'à la mer Noire. Merci Rizur. Aki Rakal me dit que c'est un film qui explique pourquoi les cyclistes sont heureux. C'est pas mal en vrai. Ah, cette petite pause cinéma là. Méga triste. Ah, méga triste. Inspiré d'une histoire vraie alors. Réalisé par l'acteur principal. Et c'est sa vraie histoire. Me dit Mr. Zoldyck. Qu'est-ce que... A Real Pain ? Ouais, Fromentin me demande Real Pain. Ok. Comédie dramatique. Nommé aux Oscars. Creation of the Gods 2, Demon Force, il y a ça aussi. Real Pain, oh là là, ça y est. Je vois qu'il y a de la hype, ok. A Real Pain. Real Pain, official trailer.
Wix.
Petite VF, petite VF. Un vrai pain, oui, en français, ouais. Ça doit être tout le monde de la boulangerie, je pense. A Real Pain, donc Real Pain. Du coup, j'ai pas vu du tout le lien avec la boulangerie dont vous m'aviez parlé. En tout cas, beaucoup dans le chat l'ont vu et nous le conseillent. Kieran Culkin, quel acteur. Bon acteur. Et donc, lien avec Macaulay Culkin, alors. Maman, j'ai raté l'avion, c'est ça. Même famille. Ok. C'est son frère. Y a pas un petit film de science-fiction, là, un peu, là. Là, y a pas un petit film de science-fiction, là, avec dans l'espace, là, des mecs qui se tirent des coups de laser dans la gueule, là. Moi, j'aime bien ça, moi. Merci, Régio, pour le soutien. Mickey 17, on l'a regardé, déjà. La BA. Ouais, ouais, non, on a vu tout à l'heure. Y'a pas un autre, là? La science-fiction est morte? Bon, non, les gars. Non, Zad, le ciné, ce matin, la grosse page ciné, c'est dans le cadre d'une OP, effectivement. Pour le printemps du cinéma, tu l'as épinglé là-haut. C'est 3 jours de cinéma, tarif réduit, 5 euros la séance à partir de dimanche. Slow? Mais Slow, on l'a vu, non, tout à l'heure. Le chat recommande Mickey 17, ouais. Ah oui, j'ai confondu avec Flo. Et attends, il est en salle actuellement? Alors, Mickey 17, c'est très conseillé, ouais. J'ai regardé à nouveau Ready Player One récemment là-dessus, Samuel. Je l'ai vu 3 fois ce film, je crois. Blanche-Neige sort demain? Oui, j'ai vu ça. Ça se regarde, Blanche-Neige? La BO de Bienvenue chez les Ch'tis de Coquine est pas mal aussi. Les Ch'tis de Coquine, c'est au cinéma en ce moment, ça? C'est quoi les Ch'tis de Coquine comme film? Parle de quoi? J'adore. Trop mignon les avertissements. Attention, non, Samuel, non, non. Ne va pas voir la bande-annonce de les Ch'tis de Coquine. Attends, Prosper. Zadie, c'est toujours drôle, non? Non? Vous êtes trop prévenant, trop gentil. Putain, oh, il y a le vieux qui vient de se faire avoir. Il va aller voir un film. Il va aller voir Prosper. D'être trop gentil. Prosper, ça va être bien, non?
Qu'est-ce que.
Eh.
Et si votre argent.
Les amis, c'est de la science-fiction française. Moi, ça me plaît. Moi ça me plaît, moi ça me plaît. Ah le costume avec Jackie Chan, t'as la ref, McQueen. Un costume magique, là, je me rappelle, ouais. La calvitie, c'est un thème humoristique qui fonctionne bien de nos jours. Ouais, c'est un thème qui est interdit ici, par contre. La calvitie, on n'en parle pas trop ici, parce que c'est pas intéressant, en fait, ça intéresse personne. Ouais. Allez, on s'en regarde un petit dernier. Non, ça... Y a pas de... Ouais, personne n'a de calvitie ici. Là, il y a un truc, là. Creation of the Gods 2, Demon Force. C'est pour moi, ça. Non? Non, ça, là. Ça, là. Là, ça, là. Creation of the Gods 2, Demon Force, ça va être... C'est forcément bien, non? Moi, je vais regarder ça, moi. Creation of the Gods 2. J'ai pas vu loin. Creation of the... Ça doit être bien, ça. Le titre est incroyable. Attends. Le titre c'est Creation of the Gods 2 Demon Force. Hein? Ça c'est fou ça. Ça, tu sais déjà que ça va être. Tu sais déjà que tu vas passer un bon moment. Tu sais déjà que tu vas passer un bon moment. On va se régaler là. Là ça va être folie. J'en étais sûr. Avec un titre comme ça, ça pouvait être que bien. Creation of the Gods 2 Demon Force. Hein? Ça c'est pour moi ça. C'est pour moi. C'est choisi ça. Un dernier petit plaisir. Peaches goes bananas. J'aime bien le titre. C'est moi qui choisis le dernier. The Lost Lands. Oh quoi? Mais il y a un film d'aventure fantastique, la personne ne me dit rien. Attendez. Le 2 est toujours mieux que le 1. Non, c'est l'inverse. Attendez. Il y a un film qui s'appelle In the Lost Land, et c'est marqué Action, Aventure, Fantastique. Il y a Dave Bautista dedans et Mia Jovovich. Donc là, c'est fou. In the Lost Land. Donc là, on est sur du In the Lost. C'est pas In the Mood for Love, hein. Lost Land. Ouais, on se le met en VO. Ok. Ça va être folie, ça. Ça va être folie, ça. On va... Non, celui-là. Celui-là, ça va être folie, celui-là. Ça... Comment ça, ça sent le nanar? Pas du tout. Alors, attends. T'as vu les acteurs ou quoi? Hein? Attendez. J'ai beaucoup aimé le commentaire de... Attends, qui était trop mignon. Defalm, GG à toi. Mia Jovovich, c'est un peu comme Nicolas Cage. On aime bien l'être humain, un peu moins les films. Un peu moins les films. Oh, joli scarabée magique. Mr. Robot. Pour l'exclamation Zilan, Switch, Swift Leech, tu as la réponse à ta question. Bon, allez. Dernier des derniers. Alors moi, vous savoir que alors moi je suis un peu malade des. Alors je vous avais tout comprendre, je vous ai pas tout dit. Moi je suis un fou des bandes annonces. C'est-à-dire qu'en fait, à une époque, je sais pas sur mon téléviseur, j'avais trouvé un site, c'était que des bandes annonces, voilà, des films qui allaient sortir. Et en fait, moi je peux regarder des bandes annonces pendant 3 heures. Voilà, de films que j'irai jamais voir, mais j'adore les bandes annonces. Voilà. Et là, je me voilà, c'est pour ça que j'enchaîne là. Je peux regarder 3 heures de bandes annonces. La dernière, c'est moi qui vais la choisir. Ça parle de quoi, ça? Donc je m'excuse pour ça. Et après, tu parles du film en soirée. Ah non, après j'en parle pas. De toute façon, je vois personne, j'ai pas d'amis. Mais j'adore regarder les bandes annonces. J'adore ça. Je peux vraiment passer 3 heures à en regarder, quoi. Attends, je choisis la prochaine et la dernière, et puis après, je vais aller préparer ma réunion de 14h. C'est quoi ça, Berlin était 42? Film allemand. Ah, c'est beau. Pardon, hein. Moi, ça me plaît. Berlin était 42, film biographique allemand, sorti en 2024. Le film basé sur Hilde Coppi, qui, avec son mari Hans Coppi, appartenait à l'Orchestre Rouge, groupe de résistance allemand au nazisme. Le film est un drame sur une vie courte, sur l'amour, sur la mort, basé sur des événements réels de la Seconde Guerre mondiale. Ben, voilà. Moi, c'est le genre de film que... Quand j'étais cinéphile, quand j'allais au cinéma, j'allais voir ce genre de film, moi. Je me rappelle d'un film de Margaret von Trotta, je crois que c'était elle, une réalisatrice allemande, sur Rosa Luxembourg. C'était un film sur la vie de Rosa Luxembourg, la fondatrice du mouvement révolutionnaire Spartacus, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne sais plus si le film s'appelait pas Rosa Luxembourg, Rosa ou Spartacus, je ne sais plus. Mais c'est un de mes plus... Voilà, j'aimais ce genre de film, quoi. Bon, ça c'est quand j'allais au cinéma, ça. Était 42. J'ai la bande annonce.
Oui.
Je vous le mets. Et après, je vais aller manger. Et après, j'ai une réunion là à 14h pour taffer. Enfin, c'est dans. Il faut que je parte dans une demi-heure, Marc. Dernière bande annonce. Voilà. Ça, c'est un film que je pourrais aller voir. Ça. Un film historique. En plus, on me dit que c'est une vraie histoire. Faire réfléchir sur le destin, sur les destinées, sur ce qu'on doit. Alors, une bande-annonce qui donne des frissons, ça arrive pas souvent. Et là, j'en ai eu, par exemple. Voilà. Voilà. Waouh. D'autant qu'on sait que cette histoire est vraie. Le film a le mérite de nous rappeler qu'il y a eu des résistants allemands au nazisme. Voilà. L'interprétation a l'air impeccable. C'est fou. Une bande-annonce qui te donne vraiment envie de voir le film, une bande-annonce qui te donne des frissons. Une bande-annonce qui te donne des frissons. Bah écoutez, je regrette pas le temps que j'ai passé ce matin sur ces bandes-annonces. Du coup, le film, je vous rappelle le titre, c'est Berlin était 42. Voilà. Et on boucle comme ça, avec cette petite OP avec le printemps du cinéma, à partir du dimanche pour 3 jours. Chaque film, donc notamment celui-ci, c'est 5 euros. Quel que soit le film, quelles que soient les séances, quels que soient les cinémas. Voilà. Bah moi, je pourrais aller voir ça. Du coup, j'irai voir tout seul parce que je pense pas emmener... Hélène et les enfants là-dessus, quoi. Je pense. Voilà. Nous, on ira plutôt voir le. Comment ça s'appelle, là le. Attends, c'est Blanche-Neige, c'est ça? Blanche-Neige? De mon temps, c'était 5 francs. Mais Ronan, j'ai connu, moi. Je me rappelle Alors 5 francs, je ne me rappelle pas trop, mais je me rappelle du cinéma à 7 francs. Déjà, quand il est passé à 10 francs, le cinéma, c'était cher. 7 francs, c'était un peu plus d'un euro, quoi. Ouais. Mais bon, c'était une autre époque. J'ai connu ça. Je me rappelle quand, quand le cinéma a passé les 10 francs, on était en mode... Dis donc, ils se font plaisir, hein. C'est fou, hein. Ouais, des films... Ouais, des films en noir et blanc, des films muets, bien sûr. J'ai connu... Oui, c'était... Bien sûr. C'était muet. Ouais. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin jusqu'au bout, c'est adorable. Toutes les infos sur le printemps du cinéma, c'est en haut, c'est épinglé pour l'exclamation printemps. Je vous retrouve alors. Là, j'ai une grosse réunion à 14h. Ensuite, je vais bosser sur l'émission de demain. Alors là, je compte sur vous. C'est le stream qu'il faut regarder de ma semaine de stream. S'il y en a qu'un, c'est celui-là. Étoile, Dejna, Catsup, Henri Tran, Dwagby, grand quiz, grande émission de culture. Question culture générale, question culture pop, question autour du monde de l'économie, de la finance, tout ça. Et ça, c'est mercredi à 19h30. Ça fait des mois avec Joe qu'on travaille sur ce live. C'est un gros, gros, gros boulot qu'on a mis dessus. J'espère que ça va vous plaire. Rendez-vous. Donc, c'est demain, 19h30, pour le coup. On compte sur vous, là, parce qu'on a taffé comme des fous, là. On a taffé comme des fous sur ce live. Du coup, j'ai pas mal de boulot cet après-midi. Je vais me relire toutes les questions. Je vais relire la mécanique du jeu. Est-ce que je vais réussir à streamer un peu de gaming ce soir? Ouais, il faudrait quand même. Voilà. Il faudrait notamment pour, je sais pas, lancer... quel jeu de la Zidane on n'a pas lancé ce soir? Un petit Warcraft 3 ce soir, par exemple, ça pourrait être pas mal. Je vais me tuer, la santé, mais c'est pas grave. Parce que demain matin, je compte bien refaire une revue de presse. Je compte bien refaire une revue de presse. Parce que ça stream pas assez, ça stream pas assez. Voilà. Merci pour ce matin. Merci d'être aussi nombreux sur les matinées Étienne, sur les revues de presse, de partager l'actu, tout ça. Merci d'avoir partagé cette page ciné avec moi. Je vous retrouve donc ce soir, je l'espère. Voilà. Je vais essayer de streamer quand même. Même si c'est pas longtemps. Voilà. Prenez soin de vous. Qui est en live, qu'on aille donner de la force à un autre créateur de contenu là? Merci monsieur, j'adore. J'adore quand tu m'appelles monsieur. Bon appétit aussi, hein. Bien sûr, Charles Lazare propose. Qui est en live là? Je regarde. Chez les amis déjà. Ça mange là? Vous mangez déjà? Tu manges pas? Si, je vais aller valer un petit truc. Je vais aller valer. Putain, je peux parler français quoi. Ok, j'ai peut-être une propale, là. Je regarde qui est en live. Chez les amis là. C'est-à-dire sur les 600 chaînes que je follow, que je regarde. Je passe ma vie devant Twitch. Et je vis ma meilleure vie. Ok, quelqu'un dans le chat m'a proposé. C'est Charles Lazare. Valkia. Il y a un J. Je sais pas si je pense. Valkja. Je dirais plutôt Valkia peut-être. On lui demandera. Qui est sur. R6. Rainbow Six. Ouais, ça a l'air pas mal, non? Déjà, je vais follow. Voilà. Il y a des viewers. Il y a plus de 100 viewers sur sa chaîne. Donc, Valkia. Avec un... ouais, je pense que ça se prononce comme ça. C'est parti. Red. Val. Il y a un J, mais moi, je le prononcerai comme ça. Voilà. Vous lui demanderez comment on prononce. Prenez soin de vous. À ce soir, j'espère, pour un peu de gaming. Et merci d'être là et merci de soutenir les créateurs, les créatrices de contenu, les streamers, les streameuses. Et bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé encore. À tout à l'heure. Merci pour ce matin.